prendre le micro ? Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, c'est mieux comme ça. Merci pour votre présence. J'imagine, Pierre-Henri, c'est toujours comme ça. À Paris, tu connais le quart d'heure Poitevin. Le Parisien, ici, on a le quart d'heure Poitevin. Enfin, c'est le quart d'heure, c'est partout pareil, quoi, hein. Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir mon collègue et ami, Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mais tu dois être resté professeur des universités.
Non, j'ai quitté.
T'as quitté ?
J'ai quitté.
Oh là là. Bon. Pierre-Henri était professeur à l'université de Paris Sud, c'est-à-dire Orsay, hein, le plateau là où ils disent qu'il y a plus de matière grise qu'ailleurs, ce dont je ne suis pas sûr. La preuve, c'est qu'il l'a quitté.
Non, mais parce que ma matière grise diminuait avec l'âge.
Et c'est très drôle parce que Pierre-Henri est rendu maintenant au muséum à Paris. Alors, je vais être désagréable avec lui.
Ça ne va pas changer.
C'est un botaniste. Ça, il n'aime pas. Si, ça va. Évolutionniste. Et on habite presque à côté. Parce qu'il fait souvent des cours dans le secteur où j'habite, moi, dans le secteur de la rue d'Ulm. Et alors, il faut qu'on vienne à Poitiers pour se voir. Quoi. C'est globalement, mais c'est ça la vie. Hein. Bon, écoutez, c'est lui qui fait la conférence, c'est pas moi. Je crois que c'est inutile de le présenter. C'est avant tout un évolutionniste qui fait donc du végétal. Mais vous verrez qu'il fait aussi... qui est pour les Poitevins, bah, vous le connaissez tous parce qu'il a été un participant régulier et fidèle de Sciences et Citoyens. C'est un bon ami de notre ami Edgar Morin. Et donc, un certain nombre de fois, Pierre-Henri est venu à Poitiers, au moins dans ce cadre-là. Alors, merci à toi d'être venu parce que si j'ai bien compris, Darwin te procure pas mal d'occupations.
Oui.
Et ça, je n'en doute pas. Donc, justement, tu vas nous parler de la théorie de l'évolution et de ses implications sociales. Pierre-Henri, encore merci pour ta présence et c'est à toi.
Merci, Michel. Des gens qui arrivent, alors il reste quelques places devant ou alors sinon il va falloir rouvrir derrière, je sais pas, mais... Il reste des places là-bas aussi, si vous voulez. Bien, merci Michel, merci pour cette présentation. Et merci à vous d'être là. Donc, je vais vous parler un petit peu de la théorie de l'évolution et de ses implications sociales. J'ai écrit un certain nombre de choses sur ce genre de sujet. J'ai d'ailleurs aussi quelques conférences qui ont été enregistrées. Et vous trouverez tout ça sur mon site web dont je vous ai mis l'adresse là. Donc, si vous avez besoin de compléments d'information, vous trouverez tout ce que vous voudrez là-dessus, y compris le calendrier de mes conférences, ce qui vous permettra... de comprendre si jamais moi j'ai un peu de fatigue ce soir. Voilà. Donc, je voudrais vous parler d'abord de la théorie de l'évolution et ensuite des implications sociales. Je voudrais vous dire que je me suis toujours intéressé à ça. C'est ça qui m'a motivé pour faire de la recherche, d'essayer de comprendre l'évolution, de comprendre comment s'était fabriqué le monde tel qu'il est, et en particulier le monde vivant. Et que donc j'ai fait des études d'agronomie, et puis après j'ai eu un poste d'enseignant en génétique à l'agro, à Paris, mais ma recherche, c'était toujours sur l'évolution. Et puis après, j'ai monté un cours d'évolution à l'agro. Et j'enseignais l'évolution. Et un beau jour, mes étudiants, après la pause, reviennent dans la salle et me disent « Voilà, à cause de ce que vous nous racontez, on s'est fait traiter de nazis par ceux qui suivent les cours d'à côté. » Ça m'a fait un choc. Et Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à enseigner ça sans un minimum de bagages sur d'autres questions qui débordaient largement le cadre de la science elle-même. Donc j'ai fait un peu des études de philo pour pouvoir comprendre dans quoi j'avais mis les pieds en m'occupant d'évolution. Donc je vais essayer de mélanger un peu les deux aspects dans ce que je vous raconterai ce soir. Après avoir fait de la philo, d'ailleurs, du coup, j'ai suivi un séminaire d'histoire des sciences qui m'a apporté beaucoup, vous allez voir. Déjà, je pense que si on veut comprendre une théorie scientifique, il faut comprendre comment elle s'est située dans le temps. Et je voudrais tout de suite que vous vous rendiez compte que si jamais on réfléchit à ce que c'est que la biodiversité, quand on regarde les êtres vivants, on voit d'abord un fouillis absolument innommable. Et que la biologie qui étudie tout ça a longtemps et a toujours, je dirais, souffert de cette diversité. Parce que le danger est grand devant cette diversité, de ne raconter que des petites histoires sur un point particulier. On sait ce qu'on fait tous à un moment ou à un autre, qu'on travaille sur le thym, sur les cloportes, sur tout ce qu'on voudra. Au début, c'est juste une petite histoire. Je prends des sujets au hasard. Et après, il faut arriver à retrouver des choses générales à partir de là, et ça, c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui encore, la biologie est dans cette impasse constante, enfin dans ce danger d'impasse constant. Maintenant, c'est plus avec les différentes espèces, mais avec les différents gènes. Chaque équipe de biologistes est en train de travailler sur son petit bout de gène et son petite voie de signalisation, etc. Et arriver à fabriquer des choses générales, c'est une grosse difficulté. Bon, alors cette difficulté, elle a fait que la biologie a mis très longtemps avant de devenir une science. C'était pas une science jusqu'à il y a 150 ans, je dirais. Donc, disons que ça a commencé à balbutier en tant que science il y a 200 ans. Alors qu'en astronomie, Copernic, c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Hein. Et puis, 100 ans après Copernic, Galilée, il calculait la vitesse de la chute d'un corps sous l'action de la pesanteur et il trouvait les équations, etc. Et pendant ce temps-là, les biologistes y racontaient des histoires comme celle-là. Ça, c'est sorti d'un traité de botanique de 1605. Et la légende de cette figure, c'est qu'il existe un arbre peu commun en France, il est vrai, mais fréquemment rencontré en Écosse. Des feuilles tombent de cet arbre, d'un côté elles touchent le sol et se transforment en oiseau, de l'autre elles touchent l'eau et se transforment en poisson. Et alors cette histoire d'arbre, c'était très célèbre à l'époque, c'était dans tous les traités, hein. Vous en avez diverses représentations qu'on a pu trouver à l'époque, et en fait ça vient de toute une histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter aujourd'hui, sur des cirripèdes qui ressemblent un peu à des espèces de petits canards, si on y regarde, si on veut vraiment qu'ils y ressemblent. Mais aujourd'hui encore, effectivement, Barnacle, Bernic, Bernache, les oies et ces animaux ont des noms qui viennent de la même origine. Chez les zoologistes, c'était pas mieux que chez les botanistes, rassurez-vous. Vous avez à gauche, et ça c'est un autre point que je voudrais vous montrer ce soir, c'est qu'il y a toute une série de fables donc, qui se sont racontées avant que la biologie soit une science, et dont on a encore des traces très lourdes dans notre culture. Alors, une trace pas trop lourde, c'est le fait que vous connaissez tous le nom de cet individu à gauche. Hein, c'est un loup-garou. Hein. Il y a même un chanteur qui s'appelle comme ça aujourd'hui. Donc, ça reste dans notre culture. Hein. Pendant ce temps-là, donc au XVIIe siècle, eh bien Galilée calculait la trajectoire des comètes, inventait le télescope, découvrait les satellites de Jupiter, les taches solaires, et à la fin du XVIIe... Bon, il a eu quelques ennuis, comme vous le savez. Alors, ce tableau de Galilée devant ses juges, je vous le montre, on y reviendra. Je voudrais insister dessus parce que les scientifiques, leur cœur vibre quand ils voient ça, toujours. Hein. Galilée... le scientifique en face de l'obscurantisme, et c'est lui qui avait raison, et grâce à sa ténacité, il a gagné, et voilà, nous, on est les successeurs de Galilée, on ne se laissera pas faire par les obscurantistes. Et alors, il y a un petit problème, si vous voulez, c'est que, d'une certaine façon, les scientifiques sont payés pour trouver des trucs qui ne plaisent pas à leurs contemporains. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont payés par leurs contemporains pour leur dire des choses qui ne leur plaisent pas. Donc, on est dans une situation curieuse sur ce plan-là. Et alors, malheureusement, ça aboutit au fait que quand les scientifiques ne sont pas d'accord avec la société, leur réaction, c'est de se mettre dans la position de Galilée. Et il est vrai que beaucoup de grands scientifiques ont eu des ennuis avec la société. C'est de moins en moins vrai au fur et à mesure que le temps passe entre nous. Einstein n'en a pas eu des masses d'ennuis. Mais même si de grands scientifiques ont eu des ennuis avec la société, ce n'est pas parce qu'on a des ennuis avec la société qu'on est un grand scientifique. Et bon, donc on reviendra là-dessus. Voilà, donc Galilée fait des tas de choses au XVIIe siècle. Pendant ce temps-là, ça évolue pas tellement en biologie. En 1665, voilà ce qu'on trouve dans un traité de zoologie. Et vous savez aussi que au XVIIe siècle, von Leeuwenhoek a inventé le microscope. Alors, le premier microscope, c'était celui-là. Vous imaginez pas que c'était un beau machin avec plein de lentilles. C'était ça. Il y avait une lentille. On posait le machin à regarder là-dessus et on regardait à travers le trou. Et c'est quand même comme ça que von Leeuwenhoek, comme beaucoup de collégiens d'ailleurs, a découvert ses propres spermatozoïdes avec son premier microscope. Et alors immédiatement, on a commencé à dire que voilà, ces animalicules, comme on les appelait, hein, on les dessine comme ça avec un petit bonhomme à l'intérieur. Hein, et on imaginait d'ailleurs, certains allaient jusqu'à imaginer que si on regardait dans les gonades de ce petit bonhomme-là, on trouverait les animalicules de la génération d'après, que c'est ce qu'on appelait les générations emboîtées, et que nous étions tous très très petits dans les testicules d'Adam, et que les suites des générations n'étaient que le développement progressif de ces germes. Et aujourd'hui encore, il reste une phrase catastrophique qui est racontée aux enfants, malheureusement. Hein. On dit « le papa met une graine dans le ventre de la maman ». Je ne sais pas si on vous a dit ça, vous. Bon, qu'on vous l'ait dit, c'est encore problème. J'espère que vous n'avez pas dit ça à vos enfants. Hein. Parce que ça veut dire que c'est le père qui fait l'enfant et la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel va germer la graine. Hein. Ça laisse une place tout à fait anormale à la femme dans cette affaire. Je passe parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais enfin, nous, évolutionnistes, on considère que les mâles sont des parasites des femelles et que c'est les femelles qui font les descendants, évidemment. Et donc, la graine, c'est un truc femelle pour un botaniste. Ce n'est pas un truc mâle. C'est une catastrophe qu'on parle de semences humaines. Et alors, évidemment, comme cette semence, si elle ne tombait pas dans une femme, mais dans la terre, qu'est-ce que ça donnait? Vous ne savez pas? Ben, ça donnait une mandragore, hein. La mandragore, qu'on voyait pousser sous les gibets des pendus, parce que c'est une plante qui aime l'azote. Et pourquoi on pensait ça? Eh bien, parce que les pendus, souvent, la pendaison déclenche une éjaculation. Donc, il y avait de la semence humaine qui tombait par terre, et crac, il germait des mandragores. Donc, on imaginait que la mandragore était une plante à moitié humaine. C'est une plante qui crie quand on l'arrache. Vous voyez que, bon, là, c'est des représentations assez imagées, mais cette représentation-là est assez fidèle. Hein. Vous voyez que là, d'ailleurs, c'est un garçon. Et donc, souvent, ça fait comme un corps avec deux jambes. Voilà, alors, donc tout ça, c'était le XVIIe siècle. Vous voyez qu'au XVIIe siècle, on ne peut pas parler de science. Hein. C'était des histoires comme ça qu'on racontait. Et c'est seulement au XVIIIe, avec que va commencer une démarche scientifique avec la science, les prémices d'une démarche scientifique, qui ne va pas être une démarche vraiment scientifique au sens actuel du terme, mais on va commencer à essayer d'ordonner cet immense bazar de la biodiversité. Et on va, pour ça, fabriquer des systèmes. Et donc va naître une science qui s'appelle la systématique, qui consiste à créer des systèmes permettant d'organiser la diversité du vivant. Et le prince des systématiciens s'appelait Carl Linné, il était suédois, il y en avait d'autres qui étaient sûrement aussi bons ailleurs, mais c'est celui-là que l'histoire a retenu comme l'emblème de l'époque. Et dans son système de la nature, en 1735, il va proposer la classification telle qu'elle est encore faite aujourd'hui, avec un binôme latin pour chaque espèce, et puis après des genres, des ordres, des classes, etc. Linné avait une vision de la biodiversité extrêmement précise, qu'il nous livre dans un petit texte de 1737, qui est au début d'un ouvrage de botanique. Il s'est occupé aussi bien de plantes que d'animaux. Il dit que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. C'est une phrase qui contient énormément de choses. Hein. Donc l'auteur a créé les espèces, ça va, c'est simple. Il a imposé une loi éternelle de reproduction et de multiplication. Donc il n'est pas question qu'une espèce s'éteigne à l'époque, hein, déjà. Et puis c'est dans les limites de leur propre type, c'est-à-dire que ce que le créateur a créé, c'est un type. Et dans les limites de ce type, les individus vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Alors c'est ce que va dire Linné ensuite. En fait, et dans bien des cas, il leur accorde le pouvoir de jouer avec leur aspect extérieur, mais jamais celui de passer d'une espèce dans l'autre. Vous voyez là la négation de l'idée de métamorphose telle que Ovid et tous les autres d'avant, les loups-garous, etc., terminés. Hein. Mais ils peuvent jouer avec leur aspect extérieur, hein, mais ils doivent rester dans le type. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que la biodiversité pour Linné? Eh bien, il parle des deux sortes de différences existantes entre les plantes, l'une étant la différence vraie, la diversité née de l'amassage du Tout-Puissant, ça c'est la différence entre les espèces, mais l'autre, la variation de la coquille extérieure due aux caprices de la nature. Donc ce qui fait la différence entre deux individus d'une même espèce, pour Linné, c'est une variation de la coquille extérieure due au caprice de la nature. Ça n'a aucune valeur, ce n'est pas de la différence vraie. La différence vraie, c'est la différence entre espèces. Cette vision de la biodiversité, malheureusement, elle existe encore d'une certaine façon. Elle existe encore, ne serait-ce que quand les gens s'amusent à nous mettre des camemberts dans ce genre-là. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est complètement scandaleux. Mais quand on nous compte des espèces de plantes et d'insectes pour nous dire qu'il y a plus de diversité chez les insectes que chez les plantes, excusez-moi, mais moi qui suis botaniste, on ne me la fera pas. Hein. Les plantes possèdent largement autant de diversité que les insectes. Et c'est pas ce que ça veut simplement dire, c'est que compter les espèces, ce n'est pas une manière de compter la diversité. Ça serait une manière de compter la diversité si Linné avait eu raison. D'accord ? En fait, je voudrais vous dire qu'on ne dispose pas à l'heure actuelle d'une vision intégrée de ce que c'est que la biodiversité. On n'a pas encore créé un concept intégrateur. On la découpe en tranches, on ne sait pas quoi en faire pour la mesurer. On sait qu'elle baisse dans tous les indicateurs dont on dispose, mais on n'a pas de vraie mesure. Voilà. Alors évidemment, à l'époque de Linné, c'était facile de faire de la biologie de la conservation. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la Bible. Hein. Le premier qui s'occupait de ça, il s'appelait Noé. Et pour garder chaque espèce, il faisait garder un couple de chaque espèce et tout allait bien. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que garder juste un couple, ça ne suffit pas. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait de la diversité dans l'espèce. Mais vous voyez, la diversité dans l'espèce, souvent, chez les gens qui s'occupent de conservation, elle est considérée comme importante, non pas en tant qu'elle-même, mais en tant qu'elle est nécessaire au maintien de l'espèce. Donc on a un vrai problème avec ce concept. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le concept de nature. Alors, au XVIIIe siècle, il y avait des pensées très différentes sur la nature. Rousseau, vous savez, la nature est bonne, etc., etc. On avait au Jardin des Plantes un garçon tout à fait charmant qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre, qui a écrit Paul et Virginie comme roman expliquant la beauté de la nature, mais qui a surtout écrit des livres prétendument scientifiques, si vous voulez, dans lesquels il expliquait à quel point la nature avait été... Alors ça, c'est la fin du 18e, hein, début 19e. Que la nature avait été bonne pour les humains, elle avait été faite pour le bien de l'homme. Et il y a un passage merveilleux où il explique que la nature fabrique des fruits pour la bouche, les cerises et les fraises, des fruits pour la main, les pommes et les poires, des fruits pour être mangés en famille, comme les melons, puisqu'ils ont des dessins de tranches, et même des fruits pour inviter les voisins, comme les citrouilles et les jacquiers. Ça, c'est donc une certaine vision idyllique de la nature, mais en même temps coexistait une vision au contraire progressiste dans laquelle il allait falloir faire progresser les choses. L'exemple type au XVIIIe siècle, pour moi, c'est Buffon. Je voudrais vous lire quelques passages d'un petit texte merveilleux qu'il a écrit, enfin merveilleux, de clarté en tout cas. Ça s'appelle « De la nature ». Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long, mais je vais vous lire des passages. Il va décrire... le haut, le bas et le milieu dans les paysages, dans les zones où l'homme n'a pas amélioré la nature. Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Dans toutes les parties élevées, des arbres sans écorce et sans cime, courbés, rompus, tombant de vétusté, d'autres en plus grand nombre, gisant au pied des premiers pour pourrir sur des monceaux déjà pourris, etc. La nature paraît ici dans sa décrépitude. Ce n'est qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Ça, c'est le haut, le bas maintenant. Dans toutes les parties basses, des eaux mortes et croupissantes font d'être conduites et dirigées, qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Entre les marais infects qui occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, il y a des espèces de landes. Les mauvaises herbes y surmontent, y étouffent les bonnes. C'est des herbes dures et épineuses qui forment une bourre grossière, épaisse de plusieurs pieds. Alors, l'homme maintenant. L'homme, obligé de suivre les sentiers de la bête farouche s'il veut les parcourir, il rebrousse chemin et dit « La nature brute est hideuse et mourante. C'est moi seul qui peux la rendre agréable et vivante. Donc desséchons les marais, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consumées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait ce venin, on verra arriver des troupeaux d'animaux bondissants. Le bœuf emploiera ses forces à sillonner la terre, qu'elle rajeunisse par la culture. Une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. » Vous voyez qu'entre la vision de Rousseau et celle de Buffon, il y a un monde. Hein, et l'opposition entre les gens qui pensent que la nature doit être conservée et les gens qui pensent qu'il faut la transformer à notre main existe donc dès le XVIIIe siècle. Je voudrais dire à la décharge de Buffon qu'il a aussi écrit des textes extrêmement violents contre ceux qui détruisaient la nature au lieu d'essayer de l'améliorer. Voilà. D'autre part, ça, c'est la vision de la nature. Maintenant, le passé. Hein, je vous ai dit que les espèces ne bougeaient pas. Il faut, donc, excusez-moi. Je vous ai dit qu'on avait pensé des fables avec des métamorphoses dans tous les sens et qu'il avait fallu au XVIIIe siècle que des grands systématiciens décident que les espèces étaient fixes. Et c'était nécessaire parce que tant qu'on croyait que tout pouvait se transformer en tout, on ne pouvait pas voir naître une biologie. tant que les hommes pouvaient se transformer en loup la nuit, etc., ça ne marchait pas. L'idée donc que les espèces puissent être transformées dans le passé apparaissait au XVIIIe siècle comme une résurgence de fables anciennes. Alors un exemple type, c'est De Maillet. De Maillet, c'était un érudit, un diplomate français qui a écrit sous son nom à l'envers, donc, pour pas qu'on le reconnaisse, donc ça fait Téliamède. Il a écrit un traité dans lequel il expliquait que toutes les formes vivantes, et les roches d'ailleurs, étaient sorties des eaux de la mer. Et Voltaire se moque de Téliamède dans un petit texte. Vous avez sûrement chez vous les contes de Voltaire. Vous avez lu Zadig ou Candide et puis c'est tout. Mais dedans, il y en a un qui s'appelle L'homme aux 40 écus que je vous conseille parce que c'est un texte sur la biologie. Et là, dans L'homme aux 40 écus, Voltaire se moque de Téliamède et il dit « Il m'apprit que les montagnes et les hommes sont produits par les eaux de la mer. Il y eut d'abord de beaux hommes marins qui ensuite devinrent amphibies, leurs belles queues fourchues se changeant en cuisses et en jambes. J'étais encore tout plein des métamorphoses d'Ovide et d'un livre où il était démontré que la race des hommes était bâtarde d'une race de babouins. J'aimais autant descendre d'un poisson que d'un singe. » Je ne sais pas de quel livre parle Voltaire dans l'histoire de bâtarde d'une race de babouins. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Mais vous voyez que l'idée, c'est de dire, celui-là qui me propose l'idée que les espèces se sont transformées, ça me rappelle Ovide, ça va, on sait que ce n'est pas vrai maintenant, on sait que les espèces sont fixes. Il faut un moment, il y a des mouvements de balancier comme ça dans l'histoire des sciences, il faut un moment, une fois qu'on a accepté une nouvelle idée, pour la relativiser et reprendre un petit bout de ce qui était faux avant, qui en fait devient vrai. Donc l'idée que les espèces sont fixes, c'est un progrès au XVIIIe siècle, mais ça va bloquer le progrès suivant, qui va être d'accepter le fait que les espèces se transforment un peu. Bon, je passe... Je voudrais quand même vous montrer un peu la suite du texte de Voltaire. Il invente un dialogue entre Téliamède et lui. Il dit « Plus il m'endoctrinait, plus je devenais incrédule. Quoi donc, me dit-il, n'avez-vous pas vu le phalan de Touraine à 36 lieues de la mer, c'est un amas de coquilles, etc. » Je lui répondis, « Quant à votre phalan, je doute encore qu'il soit un lit de coquilles de mer. Il se pourrait bien que ce ne fût qu'une mine de petites pierres calcaires qui prennent aisément la forme de fragments de coquilles, comme il y a des pierres qui sont figurées en langues et qui ne sont point des langues, en étoiles et qui ne sont point des astres, en serpents roulés sur eux-mêmes. » Ça, c'est des ammonites. Et qui ne sont point des serpents, en partie naturels du beau sexe, ça c'est les porcelaines, et qui ne sont pourtant point les dépouilles des dames. Bon, je passe, et Voltaire conclut, « J'aime mieux croire que des pèlerins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice que d'imaginer que la mer a formé le Mont-Saint-Bernard. » Vous voyez que des grands esprits comme Voltaire se saisissent du problème et se battent contre les gens qui pensent que les espèces se sont transformées. Alors, la première chose qu'il a fallu découvrir après ça, c'était que les espèces s'éteignaient, justement. Et ça, c'est la grande découverte de Cuvier. Enfin, pour moi, évolutionniste, c'est la plus grande découverte de Cuvier. Bon, évidemment, il a lancé la stratigraphie chronologique, il a découvert les mastodontes éteints, mais surtout, donc, effectivement, il découvre le fait, à propos des mammouths, qu'il y a des espèces éteintes et qu'à l'occasion de catastrophes, ces espèces s'éteignent. Malheureusement, Cuvier refuse totalement l'idée qu'elles se transforment, et donc il suppose une nouvelle création après les catastrophes, dont il ne nous dit pas grand-chose. Donc Cuvier, catastrophisme, extinction. En même temps que Cuvier, Lamarck, lui, propose l'idée que les espèces se transforment. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu souvent dans ma carrière, malheureusement, c'est que Cuvier et Lamarck se détestaient. Et quand deux scientifiques se détestent, il leur est très difficile à chacun de voir ce qui est intéressant dans ce que dit celui, dans ce que dit l'autre. Très, très difficile. J'ai moi-même beaucoup souffert de ça. Quelqu'un que je n'aimais pas, mais qui avait raison sur un point, j'ai mis très longtemps à me rendre compte. Et donc, Lamarck lui propose que les espèces se transforment. Cuvier propose qu'elles s'éteignent. Si jamais tous les deux avaient admis que certaines se transformaient et d'autres s'éteignaient, on aurait quand même drôlement mieux avancé en France. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Et la controverse a stérilisé le muséum pour un bon moment, disons. Alors, en plus de ça, Lamarck proposait une théorie totalement fausse pour expliquer la transformation des espèces. Lamarck, ça ne devait pas être un rigolo. Hein. Il parle tout le temps d'efforts. Il explique que c'est les efforts d'une bestiole qui veut manger des herbes, manger les feuilles d'un arbre. À force de tendre le cou, elle fait des efforts et ça fait des descendants qui ont un cou de plus en plus long. Ça, c'est l'exemple classique. Hein. Mais il y a pire. Hein. Les ruminants, comme ils ont des dents qui leur permettent de manger de l'herbe et pas de se battre, du coup, ils se jettent la tête l'un contre l'autre et ça leur fait monter des humeurs à la tête et ça fait pousser les cornes et les bois, les oiseaux, l'air qui essaye avec effort de sortir de leurs poumons, l'air arrivant avec effort à la base des poils les transforme en plumes. Donc voilà, c'est quand même un peu du délire, Lamarck, il faut bien l'avouer. Et donc, bien que ça soit professeur du muséum, je pense qu'on peut dire que c'est pas lui qui a inventé la théorie de l'évolution. Il a proposer une théorie fausse de la transformation des espèces. Et au fond, on peut dire que c'est peut-être la première théorie scientifique réelle. Et la preuve qu'elle était scientifique, c'est qu'elle pouvait être démontrée, qu'on pouvait démontrer qu'elle était fausse. Et d'ailleurs, on a démontré qu'elle était fausse. Une théorie non scientifique, on ne peut pas démontrer que c'est faux. Mais voilà. Donc, la vraie théorie de l'évolution, elle va être produite par Darwin il y a 150 ans, en 1859. C'est pour ça qu'on est là, c'est l'année Darwin, parce que c'est le 150e de l'édition de l'Origine des espèces. Et Darwin a eu la bonne idée de naître en 1809, c'est-à-dire il y a 200 ans, l'année même de l'apparition de la philosophie zoologique de Lamarck. Et là, Darwin a baigné dans des idées relativement lamarckiennes parce que le grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, avait les mêmes genres d'idées que Lamarck et racontait de façon beaucoup plus romancée et poétique les mêmes genres de choses. Voilà, alors Darwin propose donc deux principes fondamentaux pour expliquer sa théorie. Premièrement, la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est un phénomène, c'est un processus complexe. Ça suppose une reproduction. Alors, une difficulté, c'est qu'on a un problème de traduction. Les Français emploient une expression stupide. En France, on dit que les individus se reproduisent. Un individu ne se reproduit jamais. Vous pouvez toujours, même si vous vous cloniez, ça ne serait pas vous l'autre. Et si vous faites des enfants, eh bien, ils se chargeront de vous montrer que vous ne vous êtes pas reproduit. Donc évidemment qu'un individu ne se reproduit pas. On ne devrait jamais employer cette expression. Les Anglais ont une expression beaucoup plus maligne. Ils disent « The individuals reproduce their own kind ». Les individus reproduisent leur sorte. C'est intraduisible, donc on traduit toujours par « se reproduire ». Donc à partir de maintenant, je vous dirais « se reproduisent », mais en fait, il faudra comprendre « reproduisent leurs caractéristiques ». Alors, cette reproduction, Darwin constate qu'elle induit nécessairement une variation, il ne sait pas trop pourquoi. Et ensuite, une fois que cette variation existe, alors là, il montre comment l'écologie, dont il est en train de fonder la science, va opérer un tri parmi ces variations. Et ce tri va décider qui est-ce qui se reproduit, et ainsi de suite. Et la sélection naturelle, c'est ce processus de reproduction, variation, tri, reproduit de nombreuses fois. Ce n'est pas un tri, la sélection naturelle. C'est un processus beaucoup plus complexe qui implique la reproduction, la variation et le tri par la nature. Darwin, bon, va élaborer sa théorie progressivement. Vous connaissez tous l'histoire, je pense. Il est parti sur le Beagle. À l'époque, les postdocs, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Il part en 1831. Il fait un tour du monde et il revient en 1836. Il a eu le temps d'observer énormément de choses, de réfléchir, d'empailler des tas d'animaux, de les renvoyer à Londres. Et quand il revient, d'ailleurs, il sera célèbre pour les échantillons qu'il a envoyés pendant tout le séjour. Pour la petite histoire, Darwin avait appris, avant de partir, la seule chose qu'il avait appris, c'était de la géologie. Et puis, il avait appris à empailler les animaux avec un prof qui était un noir, un Africain. Et sans doute, ça a influencé sa vision des races. Il n'a jamais considéré qu'il y avait des races inférieures. Mais ce n'est pas tout le monde qui a eu un prof africain au 19e siècle, même au 20e. Donc voilà, Darwin revient et progressivement, il élabore sa théorie et il se rend compte que sa théorie permet d'expliquer plein de choses. Elle permet d'expliquer pourquoi au Galapagos, il y a plein de pinsons avec des caractéristiques différentes. Alors, si vous voulez, je vais survoler ça, et si vous voulez qu'on en reparle, on en reparlera après. Pourquoi avec les mêmes os, on fabrique des choses aussi différentes qu'une nageoire de baleine, une aile de chauve-souris, une patte de chat ou un bras humain? Pourquoi les embryons se ressemblent à certains moments du développement, même si jamais un embryon humain, un embryon d'oiseaux, de tortues ou de poissons, bah, à un certain stade, ça se ressemble beaucoup quand même. Et pourquoi est-ce que le loup chez nous et le loup de Tasmanie se ressemblent tellement, mais que si on regarde dans le détail, un loup de Tasmanie, c'est un marsupial. Et donc, c'est constitué fondamentalement comme quelque chose de proche d'un kangourou, alors que le nôtre, il est plus proche des mammifères placentaires. Ce qui fait que, sur le plan de sa constitution intime, un loup de chez nous est plus proche d'un dauphin que d'un loup de Tasmanie. Et à chaque fois, quand il écrit ça, Darwin dit « On ne voit pas pourquoi un créateur aurait fait comme ça. Pourquoi s'amuser à faire un loup marsupial en Australie et un loup pas marsupial chez nous ? Il aurait bien pu mettre le même partout, non ? Pourquoi est-ce que, à cet endroit-là, je ne trouve que des marsupiaux, quelle que soit la forme, à cet endroit-là, je ne trouve que des mammifères placentaires ? » Et donc, l'origine des espèces, Darwin le qualifie comme un long argument en faveur de l'idée de transformation des espèces. Dans laquelle l'homme est évidemment inclus, bien qu'il le développe très peu dans l'origine des espèces. Alors, la transformation de l'homme, t'as le même avec Bush, toi, alors, au bout ? je les mets. Bien sûr, c'est ça qui va être la première chose visible. Alors, vous savez que l'origine des espèces est publiée. Et le jour même, tous les exemplaires sont vendus. Donc, ce n'était pas une surprise. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Et immédiatement commence la bagarre avec l'histoire du singe, bien sûr. Le premier problème, c'est le problème du singe. Et Darwin a détesté la bagarre. Il n'est jamais allé à des débats, etc. À chaque fois, il envoyait quelqu'un d'autre. En général, son bulldog. Thomas Huxley s'était lui-même proclamé le bulldog de Darwin. Et Thomas Huxley, dans une lettre de 1859, écrit à Darwin pour lui dire qu'il sait bien qu'il va y avoir des tas de problèmes et qu'il peut compter sur la combativité de ses amis pour le défendre. Et d'ailleurs, il conclut en disant, oui, j'affûte, comment dire en français, bec et ongles en préparation. On retrouve l'histoire de Galilée, Darwin a eu des ennuis avec les évêques, etc. Ceci dit, Darwin a été loin d'être menacé d'aller en prison, et Darwin est finalement enterré dans une église, donc ça s'était quand même calmé depuis Galilée. Hein. Le livre d'origine des espèces pose d'autres problèmes, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux principes. Le premier principe, c'est la sélection naturelle. Le deuxième principe, c'est le principe de divergence. Je passe. La seule figure qui est dans l'origine des espèces, c'est cette figure-là, qui est une figure parfaitement théorique, dans laquelle Darwin discrétise le temps, donc les lignes horizontales représentent des époques. Et Darwin va reprendre ce schéma un grand nombre de fois dans son livre pour expliquer que, en fait, à partir de différences entre deux individus, on peut progressivement fabriquer des différences entre des variétés. Ou que si jamais on prend des variétés au départ, eh bien des variétés peuvent progressivement devenir des espèces, ou bien que les espèces peuvent progressivement devenir des genres, etc. C'est-à-dire que tout le monde vivant est constamment en train de se différencier sous l'action de la sélection naturelle. Il discute ça en détail dans son livre, je n'ai pas le temps de vous faire ça aujourd'hui. Mais ce schéma est tout à fait remarquable parce que c'est le premier qui est cette forme-là. Évidemment, Darwin, en fait, il le dira plus tard dans une lettre à un ami, et il ne l'a jamais écrit officiellement, pense qu'il n'y a qu'une seule origine à tous les êtres vivants. Il est le premier à proposer ça. Et il pense qu'effectivement, il y a une force dans l'écologie qui fait que les niches doivent se différencier, que du coup, les espèces doivent se différencier. Il n'emploie pas le mot niche, mais c'est absolument inclus dans ce qu'il écrit. Donc, sélection naturelle et divergence sont les deux principes sur lesquels s'appuie Darwin. Mais alors, pour faire ça, vous voyez que dans un système comme ça, de la différence entre deux individus et la différence entre deux espèces, il n'y a pas de différence de nature. Bon, des arbres, il y en aura plein d'autres après. Hein. Ça, c'est ceux de Haeckel juste après Darwin. Malheureusement, ils sont beaucoup moins bien, parce que vous voyez là, tac, on nous remet l'homme tout en haut. Hein. Bon, aujourd'hui, on présente les choses comme ça. Moi, bon, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais... Tout au bout de l'arbre, hein, bon, je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Donc ça... Maintenant, on est certain que ce qui est le plus proche des animaux, bon, et des coanoflagellés, c'est des champignons. Donc si on devait regrouper les champignons avec quelque chose, ce n'est pas avec les plantes qu'il faut les regrouper, mais avec nous. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a les plantes et les algues vertes. Ça, c'est une des extrémités de l'arbre, celle qui nous intéresse parce qu'on est dedans. Et effectivement, l'extrémité complète qui nous intéresse le plus, parce qu'on est dedans toujours, c'est la nôtre, avec ce genre de dessin qui est aussi antipédagogique que ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire pire. Pourquoi il est catastrophique? D'abord parce qu'on nous met des grands singes ici et des hommes là. Alors que ça, vous voyez bien que c'est dans, la lignée des hommes, elle n'est pas à côté de la lignée des grands singes, elle est dans la lignée des grands singes. Donc les hommes sont pas, les hommes descendent pas du singe, les hommes sont des singes. Et puis d'autre part, l'homme est mis au bout à droite, comme si jamais il y avait une espèce de progression là, de gauche à droite. Et puis enfin, presque le pire, je dirais, c'est qu'étant donné la forme du dessin, vous voyez, là, il y a un plus grand espace que là. Ça, c'est vraiment une grosse tricherie. Moi, je me suis amusé dans des conférences à demander aux gens quel est le plus proche parent de l'homme. Et les gens en France, en général, me répondent que c'est le chimpanzé. Bon. Mais quand je leur demande quel est le plus proche parent du chimpanzé, là, ils ont au moins une hésitation, disons. Hein. Et ils ont du mal à admettre que pour un chimpanzé, l'homme est plus proche de lui que le gorille. Et ce dessin-là n'aide pas à le comprendre. Bien sûr que du point de vue d'un chimpanzé, eh bien, l'homme, c'est plus près que le gorille. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ça ne l'est pas, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, il faut toujours dessiner les choses comme ça. Hein. Ça va beaucoup mieux. Je crois que c'est exactement comme ça, d'ailleurs, dans la phylogénie qui est montrée dans l'exposition sur l'évolution, ici. Même, c'est dommage, on n'a pas mis là une petite branche avec le bonobo. Bref. Voilà. Et... Donc voilà, cet arbre de Darwin, il a une postérité très grande. C'est comme ça aujourd'hui qu'on présente tout ce qui concerne l'histoire des espèces. Mais en plus, cet arbre de Darwin, comme je vous le disais, il confond dans un même schéma la différence entre deux individus, entre deux variétés, entre deux sous-espèces, entre deux espèces, entre deux genres. Il écrit d'ailleurs dans l'Origine des espèces, jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une démarcation entre les espèces et les sous-espèces, c'est-à-dire entre les formes qui, dans l'opinion de quelques naturalistes, pourraient être presque mises au rang des espèces sans le mériter tout à fait. On n'a pas réussi davantage à tracer une démarcation entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées, ou entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles, constituant une véritable série. Je voudrais que vous compreniez que pour des biologistes du XIXe siècle, ça, c'était scandaleux. Toute la biologie avait été fondée sur l'idée que la base de la biologie, c'était l'espèce. Hein, vous avez vu ce que disait Linné tout à l'heure. Hein. Toute la biologie était fondée sur la systématique et sur la brique élémentaire de la biologie, c'était l'espèce. Et aujourd'hui, voilà que Darwin nous dit que la différence entre deux individus, entre deux espèces, c'est la même chose à des degrés près. Hein. D'ailleurs, en 1860, donc l'année d'après l'apparition de son livre, il écrit à un ami: je suis souvent désespéré d'obtenir que la généralité des naturalistes simplement me comprenne. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. Donc Darwin va être en but à cette vision des naturalistes de l'espèce, et ça fait partie des choses qui vont l'énerver, parce qu'il pense que ce n'est pas du tout une critique à sa théorie, c'est juste une critique à la manière dont les naturalistes perçoivent la nature. Et donc, je reviens sur ce schéma. Hein. Nous comparer les insectes et les plantes en disant, voilà, il y a plus d'espèces chez les insectes, qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que je sais, moi, ce qui fait qu'il y a plus d'espèces chez les insectes que chez les plantes? Je suis certain que si je possédais une vraie mesure de la biodiversité, je trouverais qu'il y a autant ou plus, j'en sais rien, de diversité chez les plantes que chez les insectes. Simplement que les plantes les découpent en tranches beaucoup moins grosses, beaucoup plus grosse, c'est-à-dire que chaque espèce de plante renferme une diversité, on le voit bien. Dans une même espèce de plante, on peut avoir des plantes herbacées ou des arbres. Hein. Chez les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils ne peuvent plus se croiser. Donc, évidemment, hein, ça n'a aucun sens de comparer les plantes et les insectes en termes de nombre d'espèces. On peut comparer des écosystèmes comparables en termes de nombre d'espèces, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a des espèces en moins. Mais comparer les plantes et les animaux, ça n'a pas de sens. Donc non seulement on n'a pas de vrai concept de biodiversité, mais en plus on le remplace par des choses fausses. À l'heure actuelle, on n'a pas encore digéré la vision darwinienne de la diversité, on n'a pas encore digéré cet arbre. 150 ans plus tard, chez les scientifiques, alors dans le grand public, évidemment, il ne faut pas se plaindre si jamais le grand public non plus n'est pas parfaitement au point. Hein. En tout cas, Darwin pose comme problématique pour la suite de comprendre comment est héritée la variabilité dans l'espèce. Puisque maintenant, ce n'est plus un caprice de la nature, ça devient un élément essentiel. Et Darwin va poser comme question, il faut qu'on comprenne comment s'hérite la diversité dans l'espèce. Et évidemment, ça, c'est à l'origine des sciences du XXe siècle, comme vous le savez. Il va être suivi dans cette opération par Galton, Francis Galton, son cousin, qui essaye de démontrer que le génie est héréditaire. Il appartient à la famille de Darwin, c'est de bonne guerre. Et qui va inventer les statistiques d'une certaine façon pour ça. Il invente la régression linéaire, par exemple, pour repérer combien la taille des enfants par rapport aux parents, etc. Et il va aussi s'intéresser donc aux aptitudes naturelles des humains. Donc il invente les statistiques pour comprendre qu'est-ce qu'on peut prédire des descendants connaissant les parents. Il va aussi d'ailleurs s'occuper des empreintes digitales. Hein, si vous aimez les séries policières, vous avez dû voir que des fois sur l'écran, il s'allume des points sur les empreintes digitales. Bah, c'est les points de Galton. Et bon, voilà, donc une vision de l'hérédité sous forme de statistiques est lancée en Angleterre à cette occasion. Pendant ce temps-là, sur le continent européen, c'est en Allemagne que ça se passe, avec Weismann qui découvre que l'hérédité des caractères acquis n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein ? L'hérédité des caractères acquis, tout le monde y croyait à l'époque. Vous voyez là à droite, par exemple, une autre gravure du XIXe siècle qui vous montre un père extrêmement fier de retrouver chez son fils la caractéristique qu'il a acquise lui-même. Hein, et on imaginait effectivement que si vous perdiez une jambe dans votre vie, bah vous étiez susceptible de faire un jour ou l'autre des descendants, ou bien la génération d'après, ça pouvait sauter des générations, un individu à qui il manquait une jambe. Et Weismann, alors vous avez dû d'ailleurs lire des choses comme ça dans votre jeunesse sans vous en rendre compte, hein. Zola écrit dans Germinal: la peau de ces ouvriers était blanchie par des générations d'usage de mauvais savon. Vous voyez, ah, si votre grand-père utilisait un mauvais savon, ça vous blanchit la peau. Vous avez lu ça, vous n'avez pas remarqué? Vous lisiez une phrase avec l'hérédité des caractères acquis. On est pétri en France de cette idée. Bien. Donc la France est restée lamarckienne longtemps. On y reviendra 5 minutes tout à l'heure. Donc ce que Weismann démontre, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire que ce que je fais pendant ma vie, ce qui m'arrive, je ne le transmettrai pas biologiquement à mes descendants. Bien sûr, culturellement, si, hein, on est d'accord. Mais biologiquement, tout ce qui arrive à l'organisme pendant sa vie est oublié au moment où il fabrique des descendants. C'est une amnésie monstrueuse. C'est extrêmement vexant. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que moi, je ne fais rien sur le plan héréditaire. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu de mes parents. La conséquence de ce qu'explique... Ça, c'est dans les années 1880. La conséquence de ce qu'explique Weismann, c'est une conséquence énorme, c'est que les individus sont des espèces de tuyaux amorphes, hein, qui transmettent l'hérédité de leurs parents à leurs descendants sans rien faire eux-mêmes. Évidemment que c'est difficile à accepter. Hein. Alors Weismann va le démontrer en coupant la queue de souris pendant des générations pour montrer qu'il n'est pas de souris sans queue. Bon, on lui fait remarquer que l'expérience a déjà été faite sur le prépuce des jeunes garçons dans certaines cultures, même voire avec l'hymen des femmes en général. Mais comprenez bien que si jamais j'accepte l'idée de Weismann, ça veut dire que ce que je transmets héréditairement, je ne l'ai pas fabriqué, que donc moi, je n'ai aucune action sur ce qu'il y aura dans ma descendance. Alors, est-ce que chaque génération n'a aucune action sur ce qu'il y aura dans la génération d'après sur le plan héréditaire? Eh bien, si. Mais par quel processus? Eh bien, par le processus du nombre de descendants. Si certains individus laissent plus de descendants que d'autres, alors ce qu'ils avaient reçu sur le plan héréditaire sera plus représenté que ce qu'avaient reçu les autres. Et donc, la vision darwinienne de la sélection naturelle devient le seul processus évolutif. On va d'ailleurs appeler Weismann ultra-darwinien. Parce que, à partir de Weismann, il n'y a plus que la sélection qui puisse faire que les individus influencent ce qu'il y a dans la génération d'après. Ils n'influencent pas ce qu'il y a dans leurs descendants, mais ils influencent par le fait qu'ils ont plus ou moins de descendants. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, vous voyez que, à cette époque-là, on a compris quelque chose d'énorme, mais en fait, on a compris toute la portée de ce truc-là que 100 ans plus tard. Je vais y revenir tout à l'heure. Bon, non seulement on transmet que ce qu'on a reçu de ses parents, mais en plus on en transmet que la moitié, comme l'a démontré Mendel. Alors, pour la petite histoire, Mendel a publié en 1865 ses travaux, où il montre que la descendance d'un individu ne possède que la moitié du patrimoine héréditaire de son parent, et personne ne le croit, justement parce que tout le monde croit qu'un jour ou l'autre, ça ressortira. J'ai une plante à fleurs blanches qui est issue d'un croisement entre plantes à fleurs rouges. Eh bien, Mendel montre que cette plante à fleurs blanches, si je la fais se reproduire, j'obtiens que des fleurs blanches dans des générations. Et tous ses collègues lui disent, t'en as pas regardé assez, le rouge y ressortira un jour. Hein. Donc personne ne le croit. Et ses travaux sont, dit-on, oubliés, ils sont dans des livres. Pour la petite histoire, Darwin a les travaux de Mendel dans son dictionnaire d'agriculture. Mais on sait qu'il ne l'a pas lu parce qu'à l'époque, il fallait découper les pages des livres pour les lire et cette page-là n'était pas découpée. On ne sait pas ce que ça aurait donné si Darwin avait lu Mendel. Il ne l'a pas lu. Bon. Les travaux de Mendel sont donc oubliés jusqu'à 1900. En 1900, ils sont redécouverts par 3 botanistes. C'est pour ça que je n'ai pas honte d'être botaniste, tu vois. De Vries, qui en plus découvre la mutation. Corinth, qui en plus découvre que dans certains cas, l'hérédité est strictement maternelle. Et puis Tchermak, je passe. Et donc, en 1900, on se retrouve avec 2 visions de l'hérédité, la vision darwinienne avec la sélection naturelle, etc., et la vision qui vient de paraître de la génétique. Ces 2 visions vont s'affronter. Ça aussi, c'est toute une histoire. Mais... Donc, il y aura les darwiniens contre les mendéliens, ceux qui croient à la sélection contre ceux qui croient à la mutation. Et il va falloir attendre 20 ans de travail et l'arrivée de théoriciens qui vont commencer à modéliser tout ça sous le nom de génétique des populations pour avoir à la fois la mutation et la sélection et comprendre comment ça marche. C'est seulement en 1906 que naît la génétique. Ça fait 100 ans. Vous voyez, quand je vous dis que la biologie est une science terriblement jeune, c'est vraiment très très jeune, hein, puisque je vous dis qu'il y a des concepts qui ont 200 ans, qui ont 150 ans, qu'on n'a toujours pas absorbé, que le concept de non-hérédité des caractères acquis, ses conséquences, on les a comprises pour moi en 1970 à peu près. On va y venir tout de suite. Hein, parce que qu'est-ce qu'on trouve? Une fois qu'on a réunifié la génétique et et le darwinisme, eh bien, on va commencer à regarder les gènes des individus de différentes espèces et à regarder à la fois les choses sous un angle génétique et sous un angle évolutif. Ce tableau est célèbre dans les années 70. On a découvert que si on regardait le gène de l'hémoglobine alpha, eh bien, on pouvait comparer l'hémoglobine alpha d'un requin, d'un poisson osseux, d'une salamandre, d'un oiseau, d'une souris, d'un cheval ou d'un homme. Et entre l'hémoglobine d'un homme et celle d'un cheval, eh bien, il y a 18 différences. Ça, c'est un nombre de différences qu'il y a dans les cases, là. Entre un homme et une souris, 16. Entre un homme et un oiseau, 35. Entre un homme et une salamandre, 62. Entre un homme et une carpe, 68. Et entre un homme et un requin, 79. Ces résultats n'ont pas étonné terriblement les gens. Ils s'attendaient à ressembler plus à un cheval ou à une souris qu'à un requin. Là où ils ont été étonnés, c'est quand ils ont regardé dans l'autre sens. Entre un requin et une carpe, 85 différences. Entre un requin et une salamandre, 88. Requin oiseau, 83. Requin souris, 79. Requin cheval, 77. Requin homme, 79. Alors, à l'époque, ces résultats ont un peu étonné les biologistes. Je ne sais pas si vous, ça vous étonne encore aujourd'hui ou si vous êtes au courant. Non, ça va, vous attendiez à ça? Oui? Non? Vous aviez aucune idée a priori? Vous ne pensiez pas qu'un requin ressemblait plus à une carpe qu'à nous? C'est ça le point important. En fait, c'est la même chose qu'avec le cou du chimpanzé et du gorille, hein, et de l'humain. Un requin, est-ce que c'est plus près d'un homme ou d'une carpe? Du point de vue d'une carpe, quel est le plus proche? C'est l'homme ou le requin? Ben, alors si vous regardez la parenté, effectivement, la séparation entre la carpe et le requin est plus ancienne que la séparation entre la carpe et l'homme. Donc le plus proche parent de l'homme, de la carpe, eh bien c'est l'homme, et c'est pas le requin. Et donc ce qu'on retrouve ici, c'est simplement le fait que du point de vue d'un requin, tous ces trucs-là sont aussi loin les uns que les autres. On retrouve l'histoire de l'évolution dans les gènes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un espoir d'unifier les concepts de biodiversité, parce que la biodiversité, c'est une seule chose, on peut la voir au niveau génétique, que ce soit entre espèces ou dans les espèces. Mais au fur et à mesure qu'on regardait ces schémas, il est arrivé quelque chose de tout à fait curieux aux biologistes, et qu'ils se sont rendus compte d'une chose énorme, c'est que le long de ces lignes, ce qui court là, qu'est-ce qu'on hérite, qu'est-ce qu'on transmet? Je vois qu'il y a des questions, n'hésitez pas, on peut s'arrêter une seconde, là, c'est un truc pas clair. Non? Bon, on en reparlera après, alors, si vous voulez, mais... Qu'est-ce qui se passe le long de ces lignes? Qu'est-ce que j'ai hérité, moi, de cet ancêtre-là? Eh bien, je peux le dire, j'ai hérité des choses. Il suffit que je regarde mon génome et je trouve que j'ai hérité, par exemple, le gène de l'hémoglobine alpha, qui était déjà là. Mais la seule chose qu'on hérite au cours du temps, c'est la formation génétique. Ce qui est apparu aux évolutionnistes, à force de regarder les choses comme ça, c'est que la seule chose qui était transmise, c'était l'information génétique. Que la seule chose qui pouvait être sélectionnée, c'était l'information génétique. D'une certaine façon, il se passe, quand on fait un zoom comme ça de 450 millions d'années en arrière, il se passe que les organismes qui, à notre échelle, à nous, sont des individus palpables, je peux toucher un requin, je peux le peser, etc., et je peux toucher ses descendants, les peser, et entre le parent et le descendant, il y a des gènes. Ça, c'est un truc un peu immatériel qui est passé. Donc, en fait, les gènes, ça a l'air un peu immatériel, alors que les organismes, c'est matériel. Quand je regarde à cette distance-là, les organismes deviennent tellement petits dans le temps qu'on ne les voit plus. Tout ce qui reste, la trace de l'histoire, c'est l'information génétique. Le résultat, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui est conservé au cours de l'évolution, ce sur quoi la sélection agit, qu'est-ce que la sélection peut favoriser? Lorsque des individus se reproduisent plus que d'autres, ils ne se reproduisent pas plus que d'autres. Ils reproduisent plus quoi? Leurs gènes. Le fameux « kind » de l'expression anglaise, tout compte fait, si on voulait faire un anachronisme, il faudrait le traduire en disant « les individus reproduisent plus leurs gènes ». Les individus reproduisent. Et alors bon, je passe là-dessus. Mais donc, à force de regarder les choses comme ça, eh bien, on s'est rendu compte que c'était uniquement de l'information qui était transmise, uniquement de l'information qui était sélectionnée, et que toute l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'une information génétique qui a progressivement été sélectionnée pour fabriquer des organismes qui la reproduisaient de mieux en mieux. C'est pas les individus qui sont sélectionnés, les individus, ils meurent tous. La seule chose qui reste, c'est leur information génétique. Et la seule chose qui puisse être sélectionnée, c'est leur information génétique. Et donc, c'est l'information génétique qui produit les organismes qui la reproduisent le mieux. Et du coup, il y a une espèce de renversement. Ce n'est pas les gènes qui nous servent à nous reproduire, c'est nous qui servons à reproduire les gènes. Et on peut dire, donc, pour reprendre la phrase d'un automaticien suisse, hein, que les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. Évidemment, c'est vexant. Et ça pose des tas de problèmes de dire ça. Ça pose des tas de problèmes sociaux, sociétaux, comme on dirait aujourd'hui. Alors, on pourra y revenir, si vous voulez, dans la discussion après. Évidemment, d'ailleurs, quand on regarde comment l'information se reproduit à travers les organismes, et qu'on essaie de le regarder bien, on voit que les choses ne sont pas du tout comme ça. En fait, ça, c'est une manière vachement simple pour présenter les choses, pour se faire plaisir, pour trouver les biologistes. La réalité, elle est comme ça. Les informations, quand elles veulent, elles changent. Elles se remélangent. Elles passent chez les autres. Il y a des bactéries qui vont chez les cloportes pour se reproduire au lieu de continuer tranquillement à se reproduire chez elles, etc. etc. Donc, il y a eu des chloroplastes, il y a eu les mitochondries. Les informations peuvent passer d'un support à l'autre. Elles se reproduisent à travers tous ces organismes qu'elles contribuent à créer. Ça a été exprimé d'une façon très pédagogique par Dawkins sous l'appellation du gène égoïste, mais je voudrais vous dire que le malheur, c'est que cette appellation-là, elle est liée à des problèmes de comportement, etc., alors qu'au fond, l'idée même que c'est l'information qui est sélectionnée peut être vue totalement indépendamment des questions de comportement animal. Bon, j'avais peur que vous le manquiez ce soir aux infos, alors je vous l'ai amené. Les questions de génétique sont des questions de science, mais c'est aussi des questions sociales. Au cours de la dernière élection présidentielle française, un journal qui s'appelle Philosophie Magazine a cru malin de faire un débat entre un candidat de droite décomplexé à gauche et un philosophe de gauche à droite. Et il s'appelle Michel Onfray. Hein. Et la discussion commence gentiment, enfin non, bon, pas gentiment d'ailleurs, enfin bref. Sarkozy dit, il n'y a pas d'un côté des individus dangereux et de l'autre des innocents, non, chaque homme est en lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Onfray répond, je ne suis pas rousseauiste, je ne soutiendrai pas que l'homme est naturellement bon. À mon sens, on ne naît ni bon ni mauvais, on le devient, car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Là, l'intrigue se noue. Sarko, mais que faites-vous de nos choix, de la liberté de chacun? Onfray, je n'en donnerai pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs fortunes, formules, par exemple. Un pédophile non plus. Il n'a pas décidé un beau matin parmi toutes les orientations sexuelles possibles d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, c'est lui qui emploie le mot gène, hein, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Vous voyez que les gènes, c'est un problème de philo. Et que on a le droit, quand on est un philosophe, de penser que les gènes, ceci, et l'environnement, cela. Sans avoir jamais lu le moindre travail scientifique sur la question, bien sûr. Et alors, quand vous lisez ça, hein, je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement, vous savez que le type qui vous parle est un type de gauche. Suite droite, il va vous dire, non, je ne suis pas d'accord, Jacques ne répond pas qu'on est pédophile. Et alors, c'est pareil, il y a des jeunes qui se suicident, c'est pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés, mais parce que génétiquement, alors voilà la génétique qui ressort, ils avaient une fragilité, une douleur préalable, prenez les fumeurs, certains développent un cancer, d'autres non, les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire, les circonstances ne font pas tout, la part de l'inné est immense. Alors là, quand vous avez ça, vous savez que c'est un mec de droite, parce que les gènes, c'est de droite, et l'environnement, c'est de gauche. Et ça, je le dis souvent. Moi, en tant que généticien, je suis très embêté quand je fais une manip parce que je ne sais jamais si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche à l'avance. Hein, et alors, c'est terrible, ça. Hein. Donc, évidemment, on peut dire que ça a un côté plus sympa de croire que c'est l'environnement parce qu'au moins, ça peut se changer, alors que les gènes, ça ne peut pas se changer. Hein. On y reviendra un peu. Alors, ils s'étaient tellement engueulés que le lendemain, on les a convoqués à un petit déjeuner pour qu'ils essayent de finir sur une note un peu moins ridicule que la veille. Et ils finissent en disant, Sarkozy, ça vous intéresse la complexité? Onfray répond, bien sûr, vaut mieux qu'on finisse sur un éloge de la complexité que sur le braquage idéologique de la première demi-heure. C'est dommage qu'ils aient mis tant de temps à comprendre qu'il fallait qu'ils parlent de complexité. Parce que si dès le début, ils avaient dit, évidemment, les gènes et l'environnement font un mélange terrifiant qui fait qu'il est impossible de dire pour un individu si jamais c'est ses gènes ou son environnement qui a fait ce qu'il fait, ils n'auraient pas pu s'engueuler, ça aurait été moins drôle. Mais ça leur aurait évité de dire des énormités à tous les deux. Parce que dire qu'on est comme ci ou comme ça à cause de son environnement, rien à voir avec la biologie, ou que c'est les gènes qui font tout et l'environnement qui fait rien, c'est évidemment aussi con l'un que l'autre. On n'a jamais vu des gènes faire un organisme sans un environnement. Dans un livre qui s'appelle « La triple hélice », Lewontin dit une phrase que je trouve très amusante. Il dit « Les biologistes moléculaires répètent, comme les moines bouddhistes répètent leur mantra, que les gènes produisent des protéines. » Un gène n'a jamais produit une protéine. J'espère que vous êtes tous conscients de ça. De même qu'une recette n'a jamais fabriqué une tarte aux pommes. Ce qui fabrique une tarte aux pommes, c'est un cuisinier. Bien sûr, il peut utiliser la recette. Mais c'est pas lui, mais c'est lui quand même lui qui l'a fait. Un gène, c'est la même chose. C'est une information, ça ne fait rien. L'ADN, c'est une molécule horriblement incapable de faire quoi que ce soit. Elle est amorphe au plus haut point. D'ailleurs, vous la mettez dans le sol, vous la retrouvez un an plus tard, il n'y a pas de problème. Ce qui va faire une protéine, c'est tout un système qui lie l'information génétique. Et de même que donc, si vous faites une tarte aux pommes, eh bien, il y a un cuisinier, une recette et un environnement qui contient les pommes, la farine, la cuisine, etc. Pour fabriquer un organisme, il faut un génome, un système de lecture qui va être constitué par tout le corps de l'individu, plus un environnement. Et c'est les trois qui fabriquent conjointement l'individu. Il est hors de question de dire que c'est l'un ou que c'est l'autre. Malheureusement, on a employé le mot de génotype. Le mot type est horriblement mal choisi puisqu'il donne l'impression qu'il y a une espèce de type qui serait dû au gène. Évidemment, c'est faux. Le génotype n'est pas un type puisque sans environnement, il ne fait rien. Et on ne peut savoir ce que fait un génotype que dans un environnement donné ou dans une gamme d'environnements, mais jamais en soi. Bon, je passe là-dessus. Mais je voudrais vous dire qu'évidemment, c'est un problème très compliqué parce que nous, généticiens, on se retrouve constamment dans une situation difficile vis-à-vis de la société à cause de ça. Comment réagir quand on nous dit... Justement, c'est pour ça que mes étudiants m'avaient dit, et moi je disais aux étudiants que les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire, et c'est pour ça qu'on s'est fait traiter de nazis, parce que c'est droit de dire que c'est les gènes qui fabriquent les organismes. Bon. Et encore une fois, on se retrouve dans un problème. J'ai vu un colloque hallucinant pour moi, un ami gay qui revenait des USA, et qui m'a dit qu'il arrivait d'un colloque où les gays américains s'étaient posé la question, est-ce qu'on est pour ou contre le gène d'homosexualité, hein? Vous voyez le problème, hein? Ils sont pour ou contre, mais le problème, c'est que si jamais il y a un gène qui fait un truc comme ça, c'est pas avec un colloque qu'on décidera si... Enfin... Voilà, alors je voudrais, pour la dernier quart d'heure, vous parler du fait que la biologie, en plus de tout ça, est une science empirique. C'est une science empirique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais de temps en temps, quand je parlais des espèces, je projetais cette photo que j'ai tirée d'un livre de Tournier qui s'appelle « Des clés et des serrures ». Et les gens, quand ils voyaient cette photo, me demandaient... Souvent, qu'est-ce que ça donne, hein? Alors, j'en disais sans doute rien, parce qu'on n'a jamais vu un truc hybride qui se promenait dans la savane. Ils m'ont dit, ouais, mais enfin, c'est pas une grosse preuve. Et je leur disais, oui, mais en plus, c'est quand même assez loin dans l'arbre. Alors, ils me disaient, mais il faut être combien loin dans l'arbre pour que ça marche plus? Alors là, j'avais aucune réponse à leur donner, évidemment. Puis en plus, depuis, on sait que les lions, les tigres et les léopards font des petits ensemble dans les eaux, alors qu'on n'a jamais vu ces hybrides-là dans la nature. Donc, mon premier argument, il valait rien. Et puis les tigres, les hybrides en question, les tigrons, les ligres, les, je ne sais pas comment ils appellent, les hybrides entre lions et léopards, eh bien, ils sont, paraît-il, stériles. Mais vous savez, entre les chevaux, les ânes et les zèbres, on peut aussi faire tous les hybrides qu'on veut. Et ça fait des mulets, des bardeaux. Mais les mulets, on dit qu'ils sont stériles. Mais allez voir un éleveur de mulets, il vous dira qu'ils ne sont pas tous stériles du tout. Il y en a qui sont stériles et d'autres pas. Donc... Si je me pose la question, est-ce qu'il y a moyen de faire passer des hybrides entre des chevaux et des ânes, par exemple, bah pour le savoir, il faut que j'essaye. Si jamais, c'est pas parce qu'il y a un âne qui va refuser d'aller avec une jument que ça prouve que ça marche jamais, il faut que j'essaye plusieurs fois. Et puis une fois qu'ils ont fait des petits, il faut que j'en fasse suffisamment pour savoir s'ils sont tous stériles. Une science empirique, ça ne peut prédire que ce que ça a déjà vu se produire de nombreuses fois. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle prédire d'habitude en plus, hein. Dire qu'on peut prédire que ce qu'on a déjà vu, hein. Donc... Or, c'est embêtant parce que dans la société, on nous demande constamment de faire des prédictions. Et malheureusement, la biologie est une science active. Je voudrais... Le travail de Darwin, le dernier point, peut-être le plus grave sur le plan social, c'est que ça a enlevé toute morale de la nature. Huxley a dit, la nature n'est ni morale ni immorale, la nature est amorale. Non-moral. Donc, d'ailleurs, c'est le reproche principal qui est fait à la théorie de l'évolution par tous les intégristes religieux créationnistes. L'une des applications directes qu'il y a eu de la théorie de l'évolution, ça a été l'eugénique. L'eugénique, c'est une science donc proposée par Galton, qui propose d'être l'autodirection de l'évolution humaine. Je vais passer assez vite là-dessus, je vais montrer juste quelques photos pour vous donner une idée de l'ambiance. Il est dit que comme un arbre, l'eugénique tire son matériel de beaucoup de sources et les organise en une entité harmonieuse. Donc les sources, c'est la génétique et les statistiques. Vous reconnaissez là Galton et puis la génétique. Et puis après tout le reste, la médecine, la chirurgie, la psychiatrie, la religion, la politique, etc. Et donc au début du XXe siècle, se crée aux États-Unis la première société américaine d'eugénique avec Thomas Morgan, qui est le plus grand généticien de l'époque, Alexander Graham Bell, qui avait inventé le téléphone, donc qui était un type bien aussi, et puis deux généticiens humains qui vont étudier l'hérédité des tares chez les humains. Alors, évidemment, la question se pose, pourquoi il y a des tares dans la société américaine, qui était une société, comme chacun sait, idéale. Et alors, les tares, c'est quoi, hein? C'est les fous, les pauvres et les criminels, si vous voulez. Donc, on va les trouver dans les prisons, dans les asiles et dans la rue. Donc, ils vont envoyer leurs étudiants étudier ces gars-là et chercher où étaient leurs parents et ainsi de suite. Et on va dans les registres des églises et on cherche les origines de ces types-là et on trouve des choses hallucinantes. Par exemple, Adadjouk vivait en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. 64 sont des débiles mentaux. 174 des pervers sexuels. 196 des illégitimes. C'est un né hors mariage. Hein. 142 des pauvres et 77 des criminels, des meurtriers. Est-ce qu'on va laisser les Adadjouks d'aujourd'hui perpétuer cette multiplication de la misère? C'est sûrement dû à des gènes. Hein. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on trouve qu'il y a une augmentation du nombre d'obèses, on cherche des gènes d'obésité. Hein. Ça n'a pas changé beaucoup. Là, voilà par exemple un petit schéma qui montrait l'hérédité. Alors, tout généticien reconnaît la transmission d'un gène dominant et le caractère déterminé par ce gène, c'est l'illégitimité, la naissance hors mariage. La grande presse s'empare du problème. Là, vous avez la descendance de Karl et Anna. Alors, en noir, c'est les normaux. En rouge, c'est les débiles mis à l'asile. En bleu, c'est les débiles pas mis à l'asile. Karl et Anna étaient deux débiles dans un asile. Une fille normale qui a eu un mari normal. Ils ont eu 15 enfants dont on ne sait rien, malheureusement. Une fille débile qui a eu deux maris débiles avec qui elle a fait plein de débiles. Une autre fille débile qui a eu un mari aussi débile. La première génération passe encore, mais la deuxième génération n'est que des débiles. Bon, c'est la cata. La Société américaine de génie présente ses résultats comme ça. Vous voyez, elle monte d'un côté, ça c'est dans la foire de Philadelphie en 1937, d'un côté des épis de maïs pour vous montrer l'hérédité de la couleur des grains, et de l'autre, on vous montre que l'illégitimité, c'est hérité pareil que la couleur des grains de maïs, par exemple. Et au milieu, un truc vachement moderne, avec des lampes qui flashent pour vous montrer la situation. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce tableau? Certaines personnes sont nées pour être un fardeau pour les autres. Renseignez-vous sur l'hérédité, vous pouvez aider à corriger ça. Cette lampe flash toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, $100 de votre argent s'en va pour s'occuper avec des gens avec une mauvaise hérédité, les débiles, les criminels, les fous et autres malades. L'Amérique a besoin de moins de ça et de plus de ça. Cette lampe flash toutes les 48 secondes, toutes les 48 secondes d'une personne née aux États-Unis qui ne dépassera pas l'âge mental de 8 ans. Cette lampe-là, elle flash toutes les 50 secondes. Toutes les 50 secondes, on met en prison quelqu'un aux États-Unis. La phrase d'après, « Very few normal persons ever go to jail ». Il y a très peu de gens normaux qui vont en prison. C'est les gènes. Hein. Alors, on a besoin de moins de ceux-là. Hein. On a besoin de plus de ça. Celle-là, elle fait toutes les 16 secondes. Toutes les 16 secondes, il naît quelqu'un. Bon. Et celle-là, toutes les 7 minutes et demie, c'est vraiment pas souvent, il naît quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation. Alors, il est urgent d'agir. On va agir. Au 1er janvier 1935, voilà les États qui ont déjà adopté des lois eugénistes. Le Texas était évidemment à la pointe du progrès social. Vous avez raison, comme d'hab. Et on a déjà stérilisé 21 539 personnes. Aux États-Unis. Il y aura des procès, par exemple, la mère et la fille Buck vont essayer d'éviter d'être stérilisées, ça ira jusqu'à la Cour suprême et le juge conclura en disant trois générations d'imbéciles, c'est assez, stérilisez-moi tout ça. On estime que ça a été 60 000 personnes qui ont été stérilisées aux États-Unis pendant cette période. Encore plus proportionnellement dans les pays scandinaves. Évidemment, quel est le pays qui a trouvé ça génial à l'époque? C'est l'Allemagne nazie, 400 000 stérilisations d'anormaux. Indépendamment des camps, hein, rien à voir. Donc, alors, ça peut vous faire plaisir, la France a échappé à cette ignominie grâce au fait qu'en France, à l'époque, on n'avait encore rien compris à la génétique. Donc, on croyait toujours à Lamarck, nous, on était contents. On disait, il suffit d'améliorer l'environnement, puis ça améliorera l'hérédité. Hein. Le génisme, il faut comprendre que, moi, au début, on m'a raconté ça, je me suis dit, oh, quelle horreur et tout. Et puis, après, j'ai commencé à lire des généticiens de cette époque-là. Et là, j'ai été saisi moi-même d'effroi parce que je me suis rendu compte que tous les généticiens des années 30 étaient eugénistes. Tous. Ce n'était pas quelques excités. Hein. Tous. Tous les plus grands noms. Karl Pearson, l'inventeur du qui d'eux, etc. Paf, il écrit que, comme la science moderne entraîne l'esprit à une analyse exacte et impartiale des faits, c'est une éducation particulièrement adaptée pour faire des bons citoyens. Moi, je suis rationnel, je suis un meilleur citoyen que toi. Bon. Et quoi, après, qu'est-ce qu'il en déduit? Que le droit de vivre ne donne pas le droit pour chaque personne de « reproduce his kind », de se reproduire. Comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle à cause des lois sociales, et que maintenant, de plus en plus de faibles et inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards pour être parents. Julian Huxley, un altruiste, il a été fondateur de l'UNESCO. C'est le fondateur aussi de la théorie synthétique de l'évolution. C'est le petit-fils de Thomas Huxley. Et bah, Julian Huxley écrit un livre qui s'appelle « What Dare I Think ?», qui est un manifeste eugéniste. Alors, le frère de Julian Huxley, Aldous Huxley, avait quelques réticences vis-à-vis de la prise en main de la société par la biologie. Et je ne saurais trop vous conseiller de lire ou de relire « Le meilleur des mondes ». Ou d'aller voir le film « Bienvenue à Gattaca ». G-A-T-T-A-C-A, hein, c'est une séquence d'ADN. Un film qui est plein de symboles. Vous voyez, par exemple, ce type qui avait d'excellents gènes, mais il a un mauvais phénotype parce qu'il s'est cassé la figure et qu'il a perdu les jambes. Et il est là, désespéré, devant cet escalier, dans lequel vous reconnaissez, bien sûr, une double hélice. L'eugénisme s'est arrêté à Nuremberg. Enfin, après Nuremberg. Nuremberg, c'est un moment singulier dans l'histoire de nos sociétés. À Nuremberg, on a décidé que rien ne pouvait excuser le fait de ne pas respecter la dignité humaine. Rien, pas même l'obéissance aux ordres dans l'armée. Et Dieu sait si l'obéissance aux ordres dans l'armée, c'est quand même, hein, bon, ça se discute pas normalement. Nuremberg, c'est un moment singulier parce que c'est le seul moment, à ma connaissance, où les sociétés occidentales ont décidé qu'il existait une valeur qui était au-dessus des autres, et en particulier au-dessus du progrès. Parce que, en fait, l'idée de base, c'était que, bien sûr, on allait stériliser les gens, c'est triste, mais c'était pour le progrès, et que le progrès, c'était la première chose vers laquelle devaient aller les humains, et que rien ne devait l'arrêter. On n'arrête pas le progrès. Hein. Et donc, Nuremberg a dit, bah, même le progrès ne peut pas excuser, puisque rien ne peut excuser. Et du coup, l'eugénisme s'est arrêté. Plus ou moins, enfin, ça, l'eugénisme tel qu'il était pratiqué à l'époque, en tout cas, s'est arrêté. Je voudrais... Alors, après Nuremberg, Aldous Huxley écrit un livre qui s'appelle « Le retour au meilleur des mondes », dans lequel il reprend toutes ses idées. Je n'ai pas le temps de le discuter, mais je vous conseille « Le retour au meilleur des mondes », c'est aussi un très bon livre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pendant ce temps-là, rassurez-vous, la morale est sauve. Pendant que les généticiens stérilisaient les pauvres gens à l'ouest, les pauvres gens zigouillaient tous les généticiens à l'est. Hein. Ah, la Russie soviétique a décidé, à la suite de l'arrivée d'un nègre fin qui s'appelait Lysenko, à convaincre Staline donc, que la vraie biologie, la génétique, était une science bourgeoise réactionnaire, et que donc il fallait, pour faire de la science prolétarienne, accepter une vision complètement délirante appelée Michourinisme, donc, qui était une espèce de ressuscité de lamarckisme à la sauce russe. Je veux dire que le fait qu'à l'époque la science officielle communiste ait été antigénéticienne a pesé très lourd dans des pays comme le nôtre, parce que, vous voyez, la théorie de l'évolution, c'est le mélange de Darwin et de Mendel. Darwin, les cathos aiment pas, ou aimaient pas en tout cas. Et Mendel, les communistes, enfin les marxistes aimaient pas. Or, si vous enlevez les cathos et les marxistes de l'intelligentsia française dans les années, jusqu'aux années 80, vous n'avez plus personne, hein. Le résultat, c'est que la théorie de l'évolution a toujours senti le soufre, si vous voulez, dans les milieux intellectuels français, dans les milieux des sciences humaines encore aujourd'hui. On pourra y revenir. Si vous... Juste un clin d'œil, en 1909, c'est-à-dire il y a 100 ans, on fêtait le centenaire de la naissance de Darwin. L'Académie des sciences fait remarquer que Charles Darwin avait été élu à l'Académie des sciences, mais dans la section de botanique. On n'a jamais parlé de ce qu'il avait fait en évolution. Pour les Français d'il y a 100 ans, l'évolution, c'était Lamarck. Pas besoin de parler de Darwin. Donc, l'Académie des sciences s'associe à Cambridge pour fêter Darwin et dit qu'elle se félicite que la même année, c'était la publication de la philosophie zoologique, bien sûr, de Lamarck. Quant au muséum, il dit qu'il est bien content qu'on fête la philosophie zoologique de Lamarck et qu'accessoirement, on fête aussi le bicentenaire de Darwin. Bon. Je reviens sur cette histoire de priorité entre le progrès et la dignité humaine. Je voudrais finir là-dessus. Il y a quelques années, le président de la République, qui à l'époque était Jacques Chirac, a décidé d'annexer à la Constitution de la Ve République une charte de l'environnement dans laquelle il y avait le principe de précaution. Il s'est immédiatement retrouvé avec un tir de barrage énorme des académies des sciences et de médecine, avec comme seul argument que ça allait freiner le progrès. Donc cette idée du progrès qui doit être freiné à aucun prix, elle existe encore particulièrement chez les scientifiques. Et je voudrais prendre l'exemple des OGM. Dans le cas des OGM, c'est très très net que, évidemment, actuellement, enfin, je pourrais être encore plus méchant et prendre l'exemple de l'amiante, hein, mais que les institutions comme l'Académie des sciences ne veulent pas qu'on parle des problèmes liés à l'amiante ou aux OGM parce que ça pourrait freiner le progrès. Il faut donc rassurer les gens en leur tenant un discours lénifiant. Le problème, c'est que les gens commencent à s'en rendre compte qu'on leur raconte des carabistouilles et que du coup, ils ne sont plus tellement convaincus par ce genre d'arguments. Moi, j'ai vu dans des débats un scientifique arriver très sûr de lui et dire, voilà, quand je croise deux maïs, je ne sais pas quel gène il y a dans chaque maïs. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Alors que quand je fais un OGM, je sais quel gène j'introduis. Je prends donc moins de risques en faisant un OGM qu'en croisant deux maïs. Et les gens, ils sont sciés. Ils disent, ah, ma merde, en effet, tiens. Où est l'erreur? C'est pas facile à voir. Hein. L'erreur, c'est la chose suivante. C'est ce que je disais tout à l'heure. La biologie est une science empirique. Une science empirique ne sait prédire que ce qu'elle a déjà fait de nombreuses fois. Croiser deux maïs, ça fait 5000 ans qu'on le fait. Et on sait ce que ça fait. Ça fait un maïs. Mettre un gène d'une bactérie dans un maïs, on ne sait pas ce que ça fait. Personne ne peut prétendre savoir ce que ça fait. Hein. Donc, une science empirique ne peut pas du tout permettre de dire ce qui est écrit là. C'est complètement faux, mais il faut avoir suffisamment compris le système pour savoir pourquoi. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur le sujet, ça serait trop long. Sachez simplement que rien que le repliement d'une protéine, c'est un truc très compliqué. Qu'une protéine qui se replie dans une bactérie, on ne sait déjà pas complètement comment elle se reproduit, on replie, on ne sait même pas combien il y a de formes de repliement possibles, quelle est la proportion des différents, etc. Mais alors quand je la fais replier dans une plante, là j'ai plus aucune idée de ce qui se passe. De toute façon, les plantes qui ne marchent pas, je les jette, donc je ne sais pas dans quelle proportion elle s'est mal repliée complètement. Et je ne sais pas ce que je fais déjà au niveau de la protéine que je produis. Alors la physiologie de la plante entière, personne n'y connaît rien, donc on ne sait rien. Quant à l'écologie de l'écosystème dans laquelle ça se trouve, bien sûr, on ne sait pas non plus. Là où on commence à ressavoir un petit peu, c'est un niveau encore au-dessus. Donc, premièrement, je voulais bien insister sur la fait, quand on fait une nouveauté, eh bien, on ne sait pas prédire tout ce que ça va faire, parce que justement, on est dans une science empirique. Deuxièmement, on sait que les graines et les pollens se dispersent. Ça, on le sait. On a mis longtemps à le prouver. On nous disait encore il y a 10 ans que les gènes s'arrêtaient à la bordure du champ, comme le nuage de Tchernobyl, enfin à 10 mètres. Alors, il suffit d'aller regarder un petit peu les bords de route et puis de voir des colzas qui poussent au bord pour savoir qu'il y a des plantes qui arrivent très, très bien à se disséminer. Le colza, ça fait 75 000 graines par mètre carré. Vous avez déjà vu des champs de colza, sûrement, ici. Hein. 75 000 graines au mètre carré, on en perd 10% à la récolte. Si vous rendez ces graines-là résistantes à tous les herbicides connus, vous vous doutez du problème que vous allez avoir au bout d'un petit moment. On sait bien qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Et tout le monde est d'accord. Mais on ne sait pas comment faire pour ne pas le faire. Et puis en plus, il y a le fait que tout ça est tenu. Alors évidemment, le maïs ne pose pas ce problème-là. Il n'a pas des graines qui se répandent, etc. Tout ça est tenu par des grosses industries extrêmement puissantes. L'emblème, évidemment, vous le connaissez. Il est à Saint-Louis, aux USA. C'est Monsanto et son usine de chimique. Et pour finir sur les OGM, je voudrais raconter l'histoire de Percy Schmeiser. Percy Schmeiser est un agriculteur qui n'aimait pas Monsanto et donc il avait décidé qu'il reproduirait lui-même ses propres graines de colza, qu'il n'achèterait pas ses graines chez Monsanto. Pendant ce temps-là, tous ses voisins achetaient des graines chez Monsanto. Normal. Et lui, il savait bien quand même, il n'est pas idiot, hein, il savait bien que tous les ans, il y avait des pollens de chez voisins qui arrivaient chez lui. Tous les ans. Donc évidemment, plus ça allait, plus ses propres graines contenaient des gènes Monsanto, il s'en doutait. Et Monsanto aussi s'en doutait d'ailleurs. Monsanto, un jour, est venu prélever des graines dans ses champs, les a ramenées au labo, les a analysées, a montré qu'il y avait leurs gènes brevetés à l'intérieur, et on dit, voilà, monsieur Percy Schmeiser, vous nous devez 400 000 dollars de dommages et intérêts, et vous n'avez plus le droit de semer vos graines, puisqu'il y a nos gènes dedans. Procès, appel, etc., Cour suprême canadienne. La Cour suprême canadienne a dispensé Percy Schmeiser des 400 000 dollars d'amende, mais a reconnu qu'il n'avait plus le droit de semer ses semences. Dans le même temps, on montrait que les maïs traditionnels mexicains sont contaminés par des transgènes nord-américains, brevetés. Pour le moment, les sociétés nord-américaines n'ont pas encore osé aller dire aux Mexicains que leur maïs était à elles. Elles attendent que le jour où elles pourront. Hein. Elles ont déjà fait d'autres trucs. Si vous voulez qu'on en discute, je vous raconterai comment ils ont piqué les haricots jaunes et comment ils les ont brevetés, etc. Donc, comprenez bien que l'histoire des OGM actuellement, c'est l'histoire d'une guerre des semences. Il s'agit ni plus ni moins que de s'approprier l'ensemble des semences de la planète grâce au système du brevet. Alors, moi, je ne suis pas contre les OGM. Je pense qu'il y a des OGM qui pourraient être utiles. Mais fait comme ça, et fait de cette façon-là, et avec ce type de législation-là, je ne peux pas être d'accord. Et ce n'est pas du cas par cas, c'est quasiment tous les OGM qui sont concernés. Puisqu'il s'agit de toute l'alimentation de la planète. Vous comprenez, vous mettez un OGM, vous laissez le vent envoyer le pollen de cet OGM chez les plantes des voisins et tout va être à vous un jour ou l'autre. Si jamais des firmes comme Monsanto ont décidé d'arrêter toute leur production chimique et de tout concentrer sur les OGM, c'est parce que leur but, c'est de devenir les propriétaires de toute la nourriture de la planète. Comprenez-le bien. Et c'est ça l'enjeu. Bon, alors là, on est vraiment dans des problèmes de société, à mon avis. Donc, je voulais vous dire que face à ça, il y a des arnaques extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Svalbard. On vous a dit ça, vous inquiétez pas les mecs. D'accord, on est en train de foutre en l'air toute la diversité des plantes cultivées, mais on l'a mise au frigo. Tout va bien. Alors, moi je sais ce que c'est qu'une banque de graines. Ça coûte horriblement cher à faire fonctionner, non pas parce qu'il faut faire du froid, mais parce que les graines, au bout de 10 ans, elles perdent leur pouvoir germinatif. Donc il faut les ressortir, les faire pousser, et faire reproduire, refaire de nouvelles graines et les remettre. Et alors je me disais, mais comment ils vont faire en Norvège Et alors j'ai compris, ils le font pas. La Svalbard, c'est pas une arche de Noé, comme c'est écrit sur leur site web, c'est un cimetière à graines. Les graines, ils vont les mettre dedans et elles vont crever. Mais alors pourquoi ils font ça? C'est complètement con. Pas du tout. Premièrement, ça permet de dire, vous inquiétez pas, on a tout conservé. Donc tout va bien. Deuxièmement, si un jour réellement, il y a une grosse cata et qu'on a besoin d'aller ressortir ces graines qui sont mortes, eh bien il faudra les ressusciter. Et qui est-ce qu'on appellera à la rescousse? Les meilleurs biologistes moléculaires du moment pour qu'ils fassent de la biologie synthétique et qu'ils nous ressuscitent les graines en question. Donc, il faut faire de la biotechnologie de très haut niveau. Vous voyez, la logique extraordinaire, c'est de dire, on a actuellement la diversité qu'il faut à la surface de la Terre, mais comme notre système va faire que cette diversité va disparaître, eh ben, on met en place les choses qui permettront un jour de fabriquer la technologie qui les refabriquera. Ça m'a fait un peu le même effet quand j'ai vu dans Nature, il y a quelques temps, il y avait la couverture, c'était un mammouth, on disait, ça y est, on a séquencé le génome d'un mammouth. Et il y avait des gens dans le journal qui disaient on pourrait peut-être essayer de refabriquer un mammouth. Ça coûterait horriblement cher. Avec le même fric, on pourrait sûrement éviter l'extinction des éléphants. Mais non, vaut mieux refabriquer un mammouth et puis laisser éteindre les éléphants. C'est tellement plus rigolo. Alors bon, je passe. Vous voyez que les scientifiques se retrouvent là en conflit avec la société sur l'histoire des OGM, très clairement. Mais là, cette fois-ci, quand ils prennent la posture de Galilée, moi je pense qu'ils se trompent. Ils sont en conflit avec la société, mais pas parce que la société est obscurantiste, parce qu'eux sont devenus incapables de voir où était l'éthique dans leur propre action. Je voudrais finir en vous racontant un mythe qui me semble bien correspondre à ça. C'est l'histoire de Dédale. Dédale, c'était l'ingénieur au service de la technique, au service du progrès. Dès que vous aviez un problème technique, vous alliez voir Dédale en Crète à l'époque, et crac, il vous résolvait votre problème. Le malheur, c'est qu'il ne se posait pas la question de savoir si jamais ce que vous lui demandiez était malin ou pas. Il le faisait. Ça commence par une bêtise stupide. Minos veut épater ses frères, il emprunte un taureau à Poséidon qui lui fait promettre de le rendre. Le taureau est superbe. Ça épate à mort les frères de Minos. Mais Minos, du coup, il ne veut plus rendre le taureau. Je ne sais pas comment ils faisaient les types à l'époque, ils s'imaginaient qu'en se foutant de la tête des dieux, ils n'allaient pas avoir d'ennui. Poséidon, furieux, décide de punir Minos, bien sûr, et pour ça, il prend un moyen assez détourné. Il rend la femme de Minos, Pasiphae, follement amoureuse du taureau. Vous la voyez là, elle est avec le taureau, il lui plaît, mais elle ne lui fait aucun effet. Alors, c'est là que ça commence. Pasiphae appelle Dédale et lui dit « Trouve-moi un moyen de copuler avec ce taureau. » Et l'autre couillon, plutôt que de lui dire « Non, c'est pas une bonne idée », dit « D'accord, hop, il creuse, il sculpte une vache en bois, très jolie. » Il met Pasiphae à l'intérieur et ça marche. C'est le premier OGM. C'est le Minotaur. Comme tout OGM dangereux, il faut le confiner. Donc on dit à Dédale, regarde maintenant tes conneries, enferme-nous ça quelque part. Et hop, Dédale fabrique le labyrinthe. On enferme le Minotaur qui malheureusement continue à manger quelques jeunes chaque année. Et donc il faut s'en débarrasser. On appelle Thésée à la rescousse. Mais Thésée, il veut bien aller tuer le Minotaure, mais il veut pouvoir ressortir. Heureusement pour lui, Ariane, fille de Minos, est amoureuse de lui. Elle va donc demander à Dédale comment on sort de ton labyrinthe. Et Dédale lui donne le coup du fil. Oui, Dédale, il trouve toujours le moyen de compenser la connerie qu'il a faite avant. Et donc, Thésée, avec son fil, va tuer le Minotaure. Et puis, grâce au fil, il ressort. Malheureusement, Thésée est un garçon terriblement distrait. Ça coûtera d'ailleurs la vie à son père plus tard. Mais il oublie Ariane en sortant. Ariane est désespérée, Minos furieux. décide que tout ça, c'est la faute de Dédale. Il dit, hop, Dédale, dans le labyrinthe avec ton fils, je ne veux plus vous voir. Dédale se décourage jamais. Il a fait une connerie, il va trouver une nouvelle connerie pour sortir de là. Il décide de fabriquer des ailes. Il fabrique des ailes pour lui et son fils Icare. Vous connaissez la suite. Icare se casse la figure et Dédale passe le restant de ses jours à se lamenter sur la mort de son fils. Vous voyez que ce mythe est très joli parce qu'il montre cette espèce de course à la technique constamment pour régler les problèmes techniques qu'on a fait avant. Évidemment, a posteriori, on se dit, purée, si dès le départ, il n'avait pas accepté de faire copuler Pasiphae avec le taureau, ça aurait quand même été mieux pour tout le monde, quoi. Hein, y a pas de problème. Et justement, toute la question aujourd'hui, elle est là. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que Dédale n'aurait pas dû commencer? Ou est-ce que vous pensez que certes, finalement, ça a été un peu triste, mais quand même, c'est comme ça qu'on s'amuse, si vous voulez, quoi. Quel progrès? Est-ce que le jeu consiste à faire tout ce qu'on peut et puis voilà, c'est la grandeur de l'espèce humaine, on fonce et puis tant pis si ça fait des dégâts? Ou bien, est-ce que maintenant, il faudrait accepter d'être un peu plus précautionneux et se poser, avant de commencer, les questions de qu'est-ce que ça va donner à long terme? Et ça, aujourd'hui, c'est un clivage politique dans notre société. Alors, la biodiversité, elle est en train de disparaître. Il y a des gens qui se disent qu'il faudrait montrer qu'elle est rentable. C'est vrai qu'elle peut être rentable, mais moi, je pense qu'il y a un problème d'éthique derrière la biodiversité. Est-ce qu'une société peut se permettre de laisser disparaître tout ce qui traîne autour d'elle sans se poser de questions? Et bien sûr, il y a eu, il y a quelque temps, un petit espoir d'amélioration. Il y a eu un Grenelle de l'environnement. C'est remarquable. J'aime bien cette histoire de Grenelle. Bon, évidemment, pour le moment, il est... La question de savoir si la crise économique va enterrer le Grenelle ou pas est une question ouverte. On en pourra reparler l'année prochaine. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce Grenelle a permis de voir que le clivage entre les dédaliens et les antidédaliens, si vous voulez, traversait complètement les deux grands partis français. Vous avez aussi bien à l'UMP que chez les socialistes des gens qui sont pour le progrès à tout prix. Je crains que Martine Aubry en fasse partie. Et puis, des gens qui sont pour le fait de prendre un minimum de précautions, d'essayer de réfléchir un peu à ce que c'est que la nature, etc. etc. La signature du Grenelle, ça a été un moment fort pour nous, les scientifiques, qui avions demandé ça depuis 30 ans. Moi, quand je suis rentré à l'agro en 1972, j'avais un prof que les plus vieux d'entre vous connaîtront, qui s'appelle René Dumont, qui nous parlait déjà de réchauffement climatique, qui nous parlait déjà de dessèchement en Afrique, qui nous parlait de tout ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc ça faisait des années qu'on demandait que ça arrive. Ce Grenelle, ça a été un moment très fort. Bon. Mais ce qui s'est passé après au niveau des lois, ça a été extraordinaire. Je veux parler que du parti au pouvoir, puisque c'est le seul qu'on puisse juger. Hein. Vous avez M. Legrand, qui est sénateur de la Manche, qui tout au long du Grenelle a travaillé, a animé un groupe sur les OGM, auquel il ne connaissait rien au départ. Il est ressorti de là en disant « Non, non, mais il ne faut pas y aller, il faut faire attention, etc. » Voilà, ça, c'est le côté anti-Dédale. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres sénateurs... qui pense que, bien sûr, il ne faut surtout pas freiner le progrès, surtout quand il peut rapporter du fric. L'exemple type étant le sénateur Bizet, qui est aussi sénateur de la Manche, d'ailleurs, hein, et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour foutre en l'air les lois Grenelle, en particulier sur les OGM. Donc, dans le même parti, vous trouvez les deux. Je peux vous citer des noms au PS du même genre. Donc, on est dans une période très intéressante où, sur ces questions très fondamentales, le clivage n'est pas un clivage droite-gauche. Alors, voilà, je voudrais finir en vous disant que, à la suite de la vision que Darwin nous donne de la nature, on peut rêver d'aller vers une nature plus ou moins harmonieuse par un heureux effet d'homonymie. Il y a deux dessins de la nature future qui pouvaient être représentés, l'une par le douanier Rousseau, d'autre par un dessinateur qui s'appelle Rousseau, qui publie des dessins dans une dangereuse revue gauchiste qui s'appelle Le Courrier de l'Environnement de l'INRA. Ça date de 1996. Et effectivement, la question se pose de savoir ce que les biologistes nous préparent pour demain et comment est-ce que les membres de la société vont essayer d'influer sur ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris la théorie de Darwin, plus ou moins, mais on sait que la biodiversité, c'est quelque chose d'important, même si on ne sait pas bien la mesurer. On sait qu'elle est en train de disparaître. On sait que beaucoup d'activités humaines la menacent très sérieusement, que ça soit... La diversité des plantes cultivées ou des animaux d'élevage, il y a des fous qui sont en train de cloner des vaches. Vous vous imaginez, si jamais chacun peut acheter une vache clonée, tout le monde va acheter celle qui produit le plus de lait s'il veut faire du lait, celle qui produit... Et il y aura 4 vaches clonées sur tout le territoire français, il suffira de 2 maladies et puis on n'aura plus personne. Et ça sera pareil qu'à Svalbard, on aura des embryons congelés dans des frigos, mais on les mettra où, les embryons congelés? faut des vaches pour faire des... Enfin bon, bref. Donc voilà, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir si on veut aller dans le sens de Dédale ou si jamais on veut essayer de réfléchir avec précaution. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel que les citoyens s'affirment et ne fassent pas de complexe vis-à-vis des scientifiques sur ces questions et ne se laissent pas raconter d'histoire quand il s'agit du progrès. Voilà, merci.
Merci pour la richesse de votre intervention. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, si vous avez des questions à poser, je pense que le débat est ouvert et que Pierre-Henri Aiguillon se fera un plaisir de y répondre. Voilà. Donc,
sur l'aspect évolution, des questions, vous pouvez aussi affirmer des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas.
Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, il y a beaucoup de choses.
Je les ai assommées, là. C'est...
Non, pas de questions. C'est incroyable. Merci. Attendez, on va utiliser le micro parce qu'on enregistre.
Dans l'évolution, souvent, bon, on parle de la survie du plus fort, du plus apte. Donc, la sélection naturelle élimine les faibles. Bon, mais on oublie souvent aussi que dans l'évolution, il y a eu souvent une mise en commun, c'est-à-dire tout ce qui a conduit au mutualisme, à la symbiose, et même la création d'espèces, finalement, qui sont un amalgame de génomes différents. Alors, on l'oublie souvent, ça, quand on parle de l'évolution.
Oui, voilà. Oui,
je voudrais savoir un peu ce que tu en penses.
Oui, je voudrais dire que je trouve ça assez intéressant de voir que on oppose souvent l'idée que l'évolution se fait par sélection, par compétition entre les... Alors d'abord entre les individus, moi je dirais plutôt entre les informations génétiques, hein, puisque ce qui se reproduit c'est les gènes, et la coopération. Mais en fait, on est bien placé dans notre système économique pour savoir que la compétition induit nécessairement de la coopération dans plein de cas. Dès que je suis en compétition avec d'autres, si je peux m'allier avec quelqu'un pour gagner contre un troisième, je vais le faire. Donc, évidemment que tout ce jeu de sélection entre informations génétiques ne pouvait pas ne pas amener à des tas de systèmes de coopération en même temps, par le fait que, dès qu'il était plus rentable dans le jeu de coopérer avec un autre que de se battre avec lui, bah, c'était ça qui gagnait. Il ne s'agit pas d'une lutte. Alors ça, Darwin insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas d'une lutte au sens physique du terme. Il s'agit juste du fait que dans un monde fini, si jamais il y a des structures qui se reproduisent, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus de place pour tout le monde. Donc, c'est seulement ceux qui auront le mieux réussi qui vont rester. Donc, évidemment, ce système-là aboutit à ce qu'il y ait des phénomènes de coopération et bien sûr aussi c'est assez difficile de se mettre à la place d'une information. Parce qu'une information, c'est pas comme nous, ça a le don d'ubiquité. Une même information, une fois qu'elle est recopiée, elle est à deux endroits en même temps. Et donc, comment est-ce qu'une information est sélectionnée en termes de maximisation de sa reproduction? Eh bien, ça peut l'amener effectivement à s'associer avec d'autres informations qui vont marcher mieux. Alors, l'exemple le plus classique, le plus connu, c'est celui effectivement du fait que certaines bactéries sont rentrées dans certaines cellules eucaryotes pour devenir... Et ils sont devenus des mitochondries qui ont permis d'assurer la respiration des cellules eucaryotes, le fait que d'autres bactéries sont rentrées dans d'autres cellules et sont devenues des chloroplastes qui permettent la photosynthèse des plantes ou des algues. Et puis, parlons pas des bactéries, des Wolbachia et autres qui vont pouvoir avoir des effets positifs ou pas. Alors, comment ça se passe au départ? Est-ce qu'il s'agit au départ d'une bactérie qui essaye de coloniser un organisme? Est-ce qu'il s'agit d'un organisme qui mange une bactérie? Est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce qu'au début, il y en a un qui était parasite et puis qu'ensuite, ils se sont mis à travailler ensemble? On n'en sait rien. Mais évidemment que la sélection n'oblige pas les individus à se battre contre tout le monde. Mais évidemment que si jamais une information y gagne à se trouver associée avec une autre, c'est possible, et ça se fera. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer compétition et coopération. Il faut bien voir qu'il y a une compétition fondamentale parce que l'univers est fini et donc la reproduction ne peut pas être indéfinie. Mais cette compétition fondamentale peut très bien aboutir dans des tas de cas à des formes de coopération très diverses.
En fait, tout à l'heure, vous parliez de que les gènes ne pouvaient pas se répliquer tout seuls.
Ils font rien tout seuls, ils roupillent.
Ouais. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que... Moi, ce que je pense, c'est que c'est ça la première information. Avant la cellule, au niveau de Lucas, de l'origine, avant la cellule, il y a eu quelque chose. Et ça commence par l'information.
Ah, ça. Bon, vous êtes peut-être influencé par la Bible. Hein, il dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Bon, je vois mal comment une information aurait pu exister sans aucun système pour la reproduire, ni pour la lire. D'ailleurs, si vous y réfléchissez, si je vous dis qu'il y a une information dans un texte, ça veut dire que je sais le lire. Parce que si je ne sais pas le lire, il n'y a pas d'information dans le texte. Donc une information n'existe que par le fait qu'il existe un système de lecture qui va avec. Donc il ne pouvait pas commencer par exister une information, puis au miracle est apparu un système de lecture. Il faut bien que ça ait commencé ensemble. Moi, mon fantasme sur l'origine de la vie, si vous voulez, parce que je pense qu'on ne peut avoir que des fantasmes, c'est des systèmes chimiques autoproductifs extrêmement différents et extrêmement complexes qui se sont fabriqués. Et il fallait bien que ça commence par exister physiquement. Et un beau jour, a pu se coder quelque part l'information qui permettait de stabiliser le cycle. Mais je ne vois pas comment aurait pu se créer l'information avant même que le cycle chimique existe. Donc je pense qu'il faut imaginer que ça ait commencé par quelque chose de physique. Et pas d'informationnel, et que l'information est venue se coller là-dessus après, en quelque sorte. Mais je ne vois pas comment ça aurait pu commencer avec de l'information. Mais bon, comme je vous le dis, c'est un fantasme. Vous avez le droit d'avoir le fantasme inverse.
Oui, parce que ça sous-entend qu'il y a des choses qui se font sans information.
Oui.
D'accord.
Je peux imaginer ça dépend ce qu'on appelle information. Ce que j'appelle information en ce moment, c'est une information codée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le langage de l'ADN? C'est le fait que, c'est ce que les linguistes appellent un langage à double articulation. Un langage à double articulation, c'est un langage dans lequel le sens est donné à un groupe de signes par sa combinaison et non pas à chaque signe individuellement. Vous voyez, quand je parle, il y a des phonèmes. Chaque phonème ne veut rien dire en soi. C'est la combinaison des phonèmes qui donne un sens. Vous voyez que sur l'ADN, c'est la même chose. Chaque nucléotide ne veut rien dire. C'est une combinaison de nucléotides qui fait un gène qui va avoir une certaine fonction. Donc, évidemment, une information, une fois qu'elle est codée comme ça, c'est d'une infinie richesse. Parce qu'on peut jouer avec ces combinaisons autant qu'on veut. C'est pas infini, mais c'est immense. Alors que tout autre système de codage d'informations, physique, beaucoup plus simple, permet absolument pas les mêmes variations. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre le langage humain et le langage des animaux. Bien sûr que les animaux ont un langage. Mais si chaque signe doit avoir un sens, alors vous ne pourrez jamais fabriquer des bibliothèques complètes comme on a pu le faire nous. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais coder une immense diversité de situations. Donc, dès qu'il y a un truc qui bouge, il y a de l'information en quelque sorte. Je peux dire que le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est une information. Donc ça, de l'information de ce genre-là, bien sûr, il y en a eu dès le début. Mais une information codée, avec un système de décodage, ça, je ne vois pas comment ça aurait pu commencer dès le début.
Merci. Pour être un peu provocateur, dans cette évolution buissonnante, foisonnante, pourquoi l'intelligence? À quoi ça sert dans tout ça? Pourquoi l'intelligence a émergé chez l'homme? Est-ce que ce ne serait pas par hasard pour observer tout le reste?
Sincèrement, je ne pense pas que c'était absolument nécessaire. Et je pense que ça, si jamais on parle de notre manière... Parce que l'intelligence, ça dépend ce qu'on appelle l'intelligence. Si, Si je parle de l'intelligence qui permet de se faire une représentation du monde et de réagir par rapport à ça, il y en a déjà un peu chez l'amibe. Puisque quand elle repère un stimulus chimique, elle émet un pseudopode dans la bonne direction pour aller manger le machin, etc. Donc, si ce que j'appelle l'intelligence, je veux absolument que ça soit lié à la manière dont fonctionnent les humains, avec la conscience de soi, etc. Moi, je ne vois pas trop la nécessité. Évidemment, on peut dire que si ce n'était pas arrivé, on ne serait pas là pour en parler. Donc, on ne peut se trouver que là où ça a émergé. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit un énorme atout dans l'évolution à long terme. Nos capacités de destruction sont à la mesure de nos capacités techniques. Et tout compte fait, je pense que la conscience de soi, c'est un peu une malédiction de notre espèce quand même. Je me suis souvent dit qu'en fait, c'était quand même un peu vache d'avoir fabriqué une espèce où les individus sont, comme dans toutes les espèces, mortels, mais qui est la seule espèce qui sache, où les individus savent qu'ils sont mortels. C'est quand même pas sympa, quoi. Hein. Et même, ça crée une espèce de névrose constitutive dans l'espèce humaine dont je crains qu'elle empêche à jamais l'espèce humaine d'être vraiment raisonnable. Moi, je fais le pari que l'espèce humaine ne durera pas très longtemps. Franchement. Voilà, alors elle peut s'éteindre de plusieurs manières, soit de manière cataclysmique parce qu'elle aura fait des trucs trop catastrophiques, soit de manière beaucoup plus douce, simplement parce que les gens seront devenus assez riches assez tranquilles dans leur vie pour ne plus faire des enfants que pour le plaisir, auquel cas ils en font quasiment jamais deux par couple en moyenne, ce qui fait que l'espèce s'éteint doucement par un processus démographique. Alors voilà, à l'origine, évidemment, on peut bien imaginer que le fait d'avoir un langage et de pouvoir, grâce à ce langage, échanger des choses complexes, et puis on voit bien comment ça a pu être sélectionné. On voit bien que ça pouvait rapporter aux individus qui savaient faire ça au départ, mais je ne pense pas que ce soit un vrai avantage à long terme. Donc je pense que c'est arrivé, que dans quelques temps, ça sera une époque très transitoire dans l'histoire de la Terre, et puis c'est tout.
Suivant.
Je sais si je vous ai épuisé.
Technologique, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, en fait, si ce n'est pas une limite de la pensée, c'est-à-dire qu'en fait, les systèmes naturels, je pense au changement climatique et aussi les solutions qui sont parfois proposées, qui sont vraiment absolument délirantes, autant que les OGM, comme tu as pu le montrer.
Oui, genre les gens qui veulent mettre de la poudre dans l'atmosphère.
Voilà, par exemple, qui font des puits de carbone artificiels, enfin, etc. Est-ce que c'est pas en fait vraiment une limite de la pensée, c'est-à-dire que devant la complexité des phénomènes naturels, ben, il est peut-être plus facile, un petit coup de fainéantise par-dessus, de répondre par un progrès technologique, enfin qui semble être un progrès technologique, en fait, qui mène à une impasse.
Oui, peut-être. Moi, je pense qu'il y a peut-être de ça, effectivement, qu'on ne sait pas réagir autrement qu'en se disant qu'on va trouver une technique. Ouais. Encore mieux, c'est ils vont trouver. Hein. On entend ça souvent, hein, ils vont trouver. Mais il y a aussi peut-être une espèce de barrière. Je pense que c'est un peu ce que pour moi, tout ça est lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de savoir qu'on va mourir, mais on le sait, mais sans le savoir. On le sait, mais on n'a pas de mal à se projeter dans 200 ans, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une expérience qui a été très intéressante, qui a été faite il n'y a pas très longtemps involontairement. C'est un conférencier qui expliquait que le Soleil éclaterait en une supernova dans 4 millions d'années. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement de stupeur dans la salle. Et il a dit, non, excusez-moi, 4 milliards d'années. Et alors, les gens ont dit, ouf. Et je trouve ça très intéressant. Je pense que on est tout le temps en train d'oublier qu'on va mourir. Donc, en fait, on sait très bien faire le fait de se dire il y a un truc énorme qui va m'arriver là, bientôt, en fait, dans quelques années, mais je ne le sais pas, quoi. Et pourtant, je le sais, mais je ne le sais pas. Et je pense qu'on sait bien faire ça et que devant les grosses catastrophes annoncées, on a la même réaction. On emploie le même type de processus. C'est-à-dire que c'est trop gros pour qu'on puisse accepter d'y penser. Et donc, à la fois... Donc, du coup, on fait des délires dans le genre. On va effectivement régler tous les problèmes de la faim dans le monde avec les OGM, des changements climatiques avec les OGM aussi, d'ailleurs, ou alors en mettant des machins dans la... Je pense qu'une fois qu'on a refusé de voir la réalité parce que c'est trop difficile à accepter, eh ben, ça devient facile d'accepter n'importe quel délire pour en sortir. On peut appeler ça une fuite, ouais, mais c'est une protection. Je pense que mes collègues qui travaillent sur le climat sont désespérés de ça. J'ai vu, donc, je suis au conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot avec Jean Jouzel, donc, qui fait partie du GIEC, et qui est venu l'autre jour nous dire que toutes les estimations qu'ils avaient faites étaient en dessous de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est au-dessus des fourchettes les plus hautes de ce qu'ils craignaient. Ils ont donc décidé de remplacer le terme changement climatique par le terme catastrophe climatique maintenant dans leur futur communiqué. Pour que les gens se rendent compte que on ne peut plus attendre, quoi. C'est tout de suite qu'il faut agir. Déjà, ça va être grave, mais alors si on n'agit pas tout de suite, ça va être vraiment la catastrophe. Et je crois qu'ils rêvent, je crois pas qu'ils y aient. Enfin, on verra. Hein, mais... mais le problème, voilà, on me dit on ne réagit que quand on est dans l'urgence. Oui, mais le problème, c'est que mes collègues climatologues sont convaincus qu'on est dans l'urgence. Donc, ce n'est pas qu'on réagit quand on est déjà, on réagit que quand on commence à avoir des ennuis avec ce qu'on a fait. Le problème, c'est qu'avec des trucs qui ont une inertie du style de celle du climat, quand on commence à avoir des ennuis, il est plus temps de réagir. Et c'est un peu ça qui est inquiétant. Et avec la biodiversité, c'est la même chose. Je pense que quand on aura créé... On connaît mal les phénomènes d'extinction massive. Les paléontologues nous disent des choses compliquées sur l'extinction massive. On sait qu'elles ont été massives, mais qu'elles ont été en plusieurs vagues, qu'il y a eu des signes avant-coureurs, et puis après qu'il y a eu des périodes d'extinction très grosses, mais qui ont duré, etc. On sait mal comment ça marche. Il n'est pas impossible que le système Terre ait un minimum d'homéostasie, mais que si à un moment on le sort vraiment trop de son équilibre, il se mette à partir dans des changements... catastrophiques qui font qu'énormément de choses disparaissent, ça semble même assez plausible. Quand on aura suffisamment joué avec la biodiversité, on risque de rentrer dans une de ces périodes-là, hein, en plus du climat. Donc, j'aime bien une image que Hubert Reeves donne de ça. Il dit, tout système physique tend constamment à aller vers son point d'équilibre le plus proche. Alors, équilibre au sens des physiciens du terme, hein, vous savez, c'est un équilibre, c'est ce qui se passe quand les forces à court terme ont cessé d'agir et que les forces à long terme n'ont pas encore commencé. Ça relativise quand même. Hein. Mais tout système tend à aller vers son équilibre. Si je perturbe un système et que je ne le laisse pas à son équilibre, eh ben il va rechercher un autre équilibre. Et puis ici, ainsi de suite. Et si jamais il y a un truc qui perturbe constamment un système, le système va constamment se déplacer. Et la seule issue possible, c'est qu'il arrive à se débarrasser du truc qui l'empêche de trouver un équilibre. Le jour où il aura trouvé la solution pour s'en débarrasser, il pourra enfin aller vers son équilibre tranquille. Donc si sur Terre, ce qui perturbe, c'est notre espèce, et bien normalement...
Mais quand notre espèce aura disparu, peut-être que quelque chose d'autre partira.
Espérons qu'ils seront moins cons, ouais. Espérons qu'ils ne seront pas conscients de leur propre mort. Sinon, je crains qu'ils ne soient pas meilleurs que nous.
Ce sont peut-être des choses qui n'auront pas de conscience.
Dans ce cas, tout ira bien.
On ne le saura pas.
Enfin, bien. Les concepts de bien et de mal ne sont pas des concepts scientifiques. Hein. C'est-à-dire que le fait que le soleil éclate en supernova, c'est ni bien ni mal. Hein. Au point de vue scientifique. Alors, si on se donne pour but que l'espèce humaine réussisse à vivre en bonne intelligence avec ce qui l'entoure, alors il y a du boulot à faire.
Mais ça pose la question du progrès.
C'est ce que j'ai essayé de faire, oui, un petit peu. Je pense que le progrès, oui, tel que vous la posez, pour moi, elle est résolue. Parce que le progrès, Pour moi, on ne devrait jamais parler du progrès. Mais il faudrait surtout le mettre au pluriel. Il y a plein de progrès possibles.
Mais est-ce qu'il faut du progrès ?
Alors, vous savez, je pense que le 19e siècle et le 20e ont fonctionné sur l'idée qu'il y avait un progrès scientifique qui produisait un progrès technologique, que le progrès technologique permettait de faire progresser la condition de vie des humains. Il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, techniquement, on aurait les moyens de faire que personne ne meure plus de faim. Pour moi, ce serait quand même un progrès, qu'on le veuille ou non. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais vu leurs enfants mourir de faim pour penser que ce n'est pas un progrès, à mon avis. Mais, et puis ce progrès technologique donc, qui permet aux gens d'avoir un progrès dans la qualité de leur vie, qui était matériel, était censé permettre aux gens, une fois leurs besoins de base résolus, de s'élever l'esprit et de faire des progrès intellectuels et moraux. Le XXe siècle dans son ensemble a été un démenti catastrophique à cette idée-là du progrès. Les gens avaient largement de quoi vivre, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? Ils ont décidé d'aller zigouiller les voisins de toutes les manières possibles et imaginables, même des manières qu'on n'avait pas du tout imaginées avant. Donc, et puis aujourd'hui même, on est constamment environné de gens qui, pour lesquels les besoins, je pense que le patron de Valeo, là, c'était pas un mec dont les besoins de base n'étaient pas couverts, hein. Et donc, est-ce qu'il s'élève l'esprit sur le plan moral ? Pas du tout. Il cherche à avoir plus et environne les gens. Donc, vous voyez, l'espèce humaine est très décevante sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on lui a donné le progrès scientifique. Elle l'a obtenu. On ne lui a pas donné, elle l'a obtenu. Avec ça, elle a fait du progrès technique. Et avec ça, au lieu de fabriquer une société harmonieuse dans laquelle les gens vivent en bonne intelligence et essayent de réfléchir tous ensemble, eh ben, on fait la guerre, on essaye d'exploiter encore plus les autres, on augmente les inégalités, etc. Donc cette vision-là du progrès, je pense qu'il faut absolument l'abandonner. Et il faut dire qu'il n'y a pas un progrès, mais il y a des progrès possibles. Et que la question qu'on doit se poser, c'est quels sont ceux qui nous semblent souhaitables par rapport à ceux qui ne nous semblent pas souhaitables. Si on mettait le mot progrès au pluriel, il me dérangerait déjà moins.
Oui, il faut définir la finalité du progrès. Aller plus loin, pourquoi ?
Ah, il est clair que dans une instance démocratique, c'est évidemment les politiques qui doivent poser la question. Au-dessus ? Les politiques, pour moi, sont ceux qui dirigent le pays. C'est à eux de voir comment faire fonctionner le système démocratique de façon à... Je peux rien dire de plus, moi.
Permanente entre l'individualisme et finalement la société. On n'est pas dans une société d'insectes où le problème de l'individu ne se pose pas. L'individualisme d'une abeille est quand même limité. Donc, à l'intérieur, pour l'espèce humaine, il y a une lutte constante entre, et ça entraîne des tas de problèmes. La plupart des problèmes résultent de cet antagonisme entre l'individualisme et la société.
Mais là, je pense que nous parlons en occidentaux. Je ne pense pas que l'individualisme soit inscrit dans les gènes humains. Je pense que l'individualisme naît de l'interaction entre les gènes tels qu'ils existent chez les humains et les sociétés telles qu'elles existent actuellement dans certaines parties du monde. Pour moi, l'espoir, ça serait effectivement d'évoluer vers une société dans laquelle, avec la même composition génétique qu'aujourd'hui, les individus seraient beaucoup plus capables de comportement altruiste et beaucoup moins individualiste. Je ne vois pas de raison pour que ça ne puisse pas se faire. La question, c'est comment. Il y avait une hypothèse qui a été sortie à la fin du 19e siècle, c'est qu'il fallait passer par la dictature du prolétariat. On a vu que ça ne marchait pas, il faut essayer autre chose. Mais malheureusement, personne ne sait quoi. Mais je voudrais dire quand même que ça, c'est important. Bien comprendre que justement, l'espèce humaine... Est-ce qu'elle est dans l'environnement où elle est actuellement ? Voilà. Que si on changeait l'environnement social, les individus ne se comporteraient pas de la même façon. D'ailleurs, on le sait quand même bien, quoi, que selon les cultures, les gens ne font pas la même chose. Ah, on nous parlait des gènes humains, enfin.
Non, mais simplement, quand je vous écoute parler de l'espèce humaine, vous parlez de quoi ? Parce que tout ça sont des chances historiques. Alors, nous, les humains, on existe depuis 7-8 millions d'années. ce moment-là, on vivait effectivement dans un environnement qui était quelque peu différent de l'environnement dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. À ce moment-là, on était nomades cueilleurs. Et on est resté nomades cueilleurs pendant très longtemps. Très, très longtemps. Puis un jour, on s'est mis à voyager. On a quitté l'Afrique. Mais longtemps après, hein, on est resté quand même tranquillement nomades, cueilleurs, un petit peu chasseurs.
Il y avait déjà des génocides à l'époque ou pas, d'après toi ?
Sûrement, oui, bien sûr.
Tu crois ?
Oui, sûrement.
C'est ça qui est difficile à savoir.
Sûrement. Mais rare, parce que les populations étaient très faibles. Bah, je passe les détails. On continue cette histoire-là. Et l'espèce humaine dont vous parlez, c'est quand, un jour, on est devenu sédentaire, agriculteur, éleveur, chasseur. Mais ça, c'est arrivé quand ? Il y a 10 000 ans, entre 10 000 et 5 000 ans. C'est-à-dire que sur une histoire de presque 8 millions d'années, au moins 7, bah, ça a commencé, les choses ont commencé à se gâter il y a quoi, 10 000 ans quoi. Donc ça n'est pas beaucoup. Hein. Quand on parle de ce qu'a fait l'homme, c'est une toute petite, d'une toute petite partie, d'une infime partie de son histoire dont on parle.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que... Effectivement, c'est clair en tout cas qu'on n'a pas été sélectionné pour notre environnement actuel. Hein.
On vit dans un zoo.
Ouais, tout à fait. Mais voilà, on est devenu terriblement nombreux. On est non seulement sédentaires, mais organisés dans une...
On est devenu nombreux parce qu'on était sédentaires. Pour être nombreux, il faut être sédentaire. Si on n'est pas sédentaire, on ne peut pas être nombreux.
Ouais, peut-être que c'était ça l'erreur de départ. Je ne sais pas. En tout cas, le néolithique... Selon les périodes de l'histoire, effectivement, je pense qu'on pourra le voir comme une période de grand progrès ou une période d'arrivée des catastrophes. De même qu'on parle des 30 glorieuses pour les 30 années qui ont suivi la guerre en termes économiques. Et il y a pas mal d'écologistes qui commencent à parler des 30 massacreuses à la place. Hein, donc, voilà. Mais bon, de toute façon, moi, je pense qu'une fois qu'on est là, autant essayer de faire quelque chose et je pense qu'il n'y a pas besoin de croire que les gènes n'existent pas pour croire qu'en changeant l'environnement, on peut améliorer des choses. Hein, je voudrais quand même insister sur ce point-là. Et donc, moi, je pense qu'il y a des gènes qui jouent, qui font plein de choses, qui changent des choses, mais que de toute façon, ces gènes-là, ils s'expriment dans un environnement donné. Et que là, l'enjeu pour l'espèce humaine, c'est de changer son environnement social de façon à essayer d'arriver à acquérir une maturité qui lui manque horriblement à l'heure actuelle. Et pour ça, il faut qu'elle arrête de croire au progrès au sens du 19e siècle du terme. Qu'elle parle des progrès, qu'elle réfléchisse auxquels elle souhaite, etc. Je pense que c'est vraiment une vraie révolution intellectuelle qu'il faut opérer pour ça. Et je ne sais pas jusqu'où il faudra aller dans l'horreur écologique pour y arriver, mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, les gens seront convaincus qu'il faut le faire. Ce n'est pas pour ça qu'ils sauront le faire sur le coup. Alors, évidemment, on peut dire que l'amélioration des plantes ou des animaux, c'est de l'eugénisme végétal ou animal. Mais pour le moment, le procès de Nuremberg, il ne s'est jamais préoccupé de ces questions-là. Il a parlé que de la dignité humaine. Donc, on fait quand même d'ailleurs de l'eugénisme plus ou moins, aujourd'hui avec des tris d'embryons, avec des choses comme ça. Donc, mais ça n'a plus rien à voir. Pour le moment, ça se fait dans un relatif respect de la dignité humaine, puisque c'est à la demande des parents. On peut discuter de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et le film Gattaca, justement, montre à quel point, même si on laisse les parents prétendument libres, au bout d'un moment, ils vont être obligés de faire comme tout le monde, parce que si jamais tout le monde sélectionne ses embryons pour éviter un certain nombre de problèmes, vous voyez, par exemple, si on vous donne le choix entre avoir un enfant myope et un enfant pas myope, vous prendrez un enfant pas myope, il n'y a pas de raison. Hein. C'est vrai, c'est pénible, les gens qui ont des lunettes et tout, ils sont en train de les perdre. Donc évidemment, si jamais il n'y a plus d'individus myopes, ce sera de plus en plus difficile et en tout cas très cher d'obtenir des lunettes. Donc si ça arrivait, eh ben, tout le monde finirait par être obligé de choisir les enfants pas myopes, vous voyez. Donc en fait, la pression des autres suffira à faire un vrai eugénisme généralement. Enfin, c'est quand même pas la même chose de dire aux gens qu'ils ont le droit de choisir des descendants qui n'ont pas de maladie génétique ou d'interdire aux gens d'avoir des descendants parce qu'ils sont supposés avoir une... Donc voilà, ce qui a été le résultat de Nuremberg, c'est qu'on n'a plus le droit dans nos sociétés de stériliser des gens parce qu'ils étaient censés avoir des mauvais gènes. D'une certaine façon, effectivement, il y a des gens qui disent que on a lutté contre le racisme, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore su faire, c'est lutter contre le spécisme. C'est-à-dire le fait de considérer que tout ce qui n'est pas de notre espèce peut être traité n'importe comment. Mais là, pour le moment, il n'y a jamais eu de Nuremberg de ce point de vue-là. Et ça serait difficile, je trouve, d'imaginer une philosophie acceptable sur ce plan-là. On ne va pas non plus considérer qu'il faut traiter... Il y a des religieux, vous savez, dans certains pays, qui balayent devant eux pour ne pas risquer d'écraser un insecte. Ceci dit, je pense que je ne sais pas comment ils font avec les bactéries, etc. Il y a un moment où on est bien obligé de s'arrêter. Ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on mange un animal qu'on n'a pas, qu'on peut pas le respecter. Et sur ce plan-là, je ne suis pas un amoureux particulier des chasseurs, mais la plupart des chasseurs respectent infiniment plus leur gibier que ce qu'on fait dans les élevages industriels de cochons ou de volailles. Donc, si jamais il y a des gens à critiquer sur ce plan-là, c'est quand même bien l'élevage intensif hors sol, etc. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait actuellement qui sont inadmissibles pour moi sur le plan de l'éthique. Effectivement, j'espère que tout ça sera repris un jour, mais je ne sais pas comment.
Pierre-Henri, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit ce soir, sauf avec ce que tu viens de dire là. Quand tu as dit, ça, je n'accepte pas que tu dises, j'aime pas les chasseurs. Rappelle-toi.
J'ai pas dit ça.
Si, tu as dit, j'aime pas les chasseurs. Rappelle-toi, à un moment de notre histoire, on était chasseurs.
Ouais, mais justement, ce que je disais, Michel, c'est que les chasseurs ont. Je veux dire que c'est pas parce qu'à un moment de notre histoire, on était des chasseurs qu'aujourd'hui, ça se justifie pleinement. Et ça dépend quel chasseur et comment ils s'y prennent, etc. Mais bon, ce que je trouve inadmissible aujourd'hui, c'est l'élevage industriel. Ça, c'est effectivement un manque de respect total de l'animal.
Oui, mais la nature va se venger. Regarde la grippe du poulet, c'est commencé.
Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Les grippes aviaires, les vraies épidémies déclenchent toujours dans les élevages industriels.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on fait? On abat 3 canards sauvages qui étaient tranquilles et on empêche les gens qui élèvent leurs poulets en plein air de continuer à les élever en plein air parce qu'ils vont attraper la grippe aviaire. Tu vois, on est quand même loin d'avoir tiré les leçons dont on est en train de parler. Je crois vraiment qu'ils le savent. Ils mentent à ce point-là. Moi, je crois plus qu'ils sont cons. J'ai eu un bon ami qui s'appelait Louis Thaler à Montpellier, qui était un prof qui a eu une grosse influence sur la biologie évolutive en France. Et un jour où je lui disais que je pensais que c'était un type qui faisait exprès de nous embêter, il m'a dit, lorsque tu auras le choix entre l'incompétence ou le complot, choisis l'hypothèse de l'incompétence. D'abord, en général, tu auras raison, et en plus, ça t'évitera de devenir paranoïaque. Donc, j'ai toujours suivi son conseil, et je pense que les gens qui nous racontent, qui font des mesures stupides sur la grippe aviaire sont plutôt incompétents que malveillants. Bon, bah écoutez, merci bien et puis bonne année Darwin.